Il est 23h. Voici le journal. Sophie Tussaud.
La campagne de vaccination contre le Covid franchit une nouvelle étape demain avec le coup d'envoi pour administrer une troisième dose pour les résidents des EHPAD. Une actualité très politique ce dimanche, Anne Hidalgo s'est officiellement déclarée candidate pour la présidentielle et Marine Le Pen a passé la main du Rassemblement national pour se consacrer à la campagne. Alexandre Benalla face à la justice demain, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron sera jugé pour les violences commises à Paris et contre des manifestants lors des défilés du 1er mai 2018 à Paris. Et puis un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé en Isère cet après-midi. Une personne est décédée.
Europe 1.
Bonsoir à tous. C'est une nouvelle étape qui commence demain dans la campagne de vaccination avec le début du rappel pour la troisième dose contre le Covid-19. Ce sont d'abord concernés les plus de 65 ans, les personnes vulnérables et les résidents en EHPAD. Tous ceux qui ont reçu leur dernière injection il y a plus de 6 mois sont invités à se faire connaître. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de la ministre déléguée en charge de l'autonomie, seront dans une maison de retraite de Clamart, près de Paris, pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle campagne, Marion Gauthier.
Oui, ce sera une reprise toute officielle car en fait depuis le 1er septembre plus de 300 000 rappels ont déjà été effectués. C'est une machine qui redémarre mais sans difficulté, souligne Florence Arnaud-Maumet. Elle est la déléguée générale du SINERPA, le syndicat des EHPAD.
Pour vacciner une centaine de résidents, voire proposer aux familles de plus de 65 ans une troisième dose, de manière à élargir l'immunité de nos EHPAD, eh bien, il faut 2 à 3 jours de travail. Donc nous avons les ressources.
Et tout va dépendre des livraisons, glissent des professionnels du secteur. La troisième dose presse, car l'efficacité du vaccin baisse avec le temps et elle semble baisser plus rapidement après 6 mois, observe la Haute Autorité de Santé. Elisabeth Bouvet y est la présidente de la commission technique de vaccination.
Cette baisse d'efficacité, elle est plus importante chez les personnes les plus âgées. Et donc, il paraît important de protéger particulièrement ces personnes-là, puisqu'elles sont à plus de 6 mois de leur première dose. Ce sont les personnes qui ont été vaccinées en premier. Elles sont particulièrement à risque.
Mais c'est trop tôt, en revanche, pour parler d'une troisième injection pour tous. Des études sont en cours pour savoir si une troisième injection peut diminuer encore le risque de transmission du coronavirus. Les professionnels de santé pourraient alors, eux aussi, devoir relever leur manche.
Marion Gauthier, ce mercredi, ce seront tous les personnels de santé qui devront être vaccinés. 2,7 millions de personnes sont concernées. Tous les salariés des hôpitaux et des maisons de retraite qui n'auront pas reçu une première dose pourront être suspendu sans rémunération. Par ailleurs, à compter de demain, les échanges ou remboursements de dernière minute des billets SNCF ne seront plus possibles. La SNCF qui supprime cet assouplissement qui avait été mis en place depuis le début de la crise sanitaire et qui repasse à un dispositif à J-3. Actualité très politique ce dimanche et très axée sur la présidentielle. Édouard Philippe a mis fin au suspense ce soir. L'ancien Premier ministre ne sera pas candidat l'année prochaine. Il assure que son soutien sera complet à Emmanuel Macron. À gauche, Anne Hidalgo s'est officiellement lancée ce matin dans la course à l'Élysée. La maire socialiste de Paris a prononcé son discours de candidature en fin de matinée à Rouen. Première stratégie d'Anne Hidalgo pour cette présidentielle, casser son image parisienne, Jacques Sorel.
Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison que le lieu de l'annonce de sa candidature n'était pas dans la capitale. On sait l'importance de ce moment, de ce lancement dans la course à l'Élysée. Le choix a donc été mûrement réfléchi par son équipe de campagne et s'est porté sur Rouen, ville dont le maire est socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol. Anne Hidalgo, la parisienne, en province, en Normandie, mais toujours avec la Seine derrière elle. Voilà pour l'image, pour le symbole. Et cette stratégie est assumée jusque dans le choix des personnes qui vont l'entourer durant les 7 prochains mois de campagne. La maire de Paris montre qu'elle est d'abord soutenue par des élus venant de toute la France et non simplement de responsables politiques parisiens. Elle a confié la direction de son mouvement Idées en commun à Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, sa directrice de campagne et la maire de Nantes, Johanna Roland. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, lui, hérite du volet projet de la candidate et le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, est chargé de sa communication. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est essentiel pour Anne Hidalgo, dont la priorité aujourd'hui est bien de montrer qu'elle peut parler à tout le monde, à tous les Français, et pas simplement aux Parisiens.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À l'extrême droite, c'est Marine Le Pen qui a donné le la de sa campagne pour 2022. La présidentielle sera un choix de civilisation, a-t-elle déclaré dans un discours prononcé à Fréjus dans le Var. La présidente du Rassemblement National a officiellement passé la main à Jordan Bardella, le numéro 2 du parti, et ce afin de se consacrer pleinement à la présidentielle. Marine Le Pen qui n'a pas cité le nom d'Éric Zemmour dans son discours. Pourtant, l'hypothèse d'une candidature du polémiste inquiète les élus du RN et tout le monde ne parlait que de ça aujourd'hui à Fréjus, Stéphane Burgat.
Oui, à commencer par le tout nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui essaye d'apaiser la situation.
Non, c'est pas une inquiétude. Rien ne nous fait peur, nous sommes démocrates. Que ceux qui souhaitent faire gagner la France nous rejoignent, mais Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan ne seront jamais des adversaires. Mais il est vrai que la division du camp national, c'est probablement ça le souci de Français.
Et parmi les 900 sympathisants réunis dans l'amphithéâtre romain de Fréjus, les avis sont assez partagés. Dominique, par exemple, est ravi car selon Noël, eh bien, la menace d'une candidature Zemmour est en train de booster Marine Le Pen et le Rassemblement National.
Marine Le Pen, elle s'était vraiment pour nous un peu ramollie. Je pense qu'il a bien secoué le cocotier et Marine a été beaucoup plus ferme. Son discours était beaucoup plus migratoire et donc je pense que Zemmour apporte un plus.
D'autres à l'inverse se montrent plus inquiets, c'est le cas de Maël.
On se méfie, bah voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de divisions. On l'a vu à gauche en 2002. Il peut peser, la campagne va être lancée après au fur et à mesure des débats. On sait que c'est un bon débatteur, il faut l'admettre.
Et une chose est sûre, tous vont guetter les prises de parole d'Éric Zemmour la semaine prochaine. Lui qui aborde une semaine de tournée promotionnelle pour son livre qui pourrait bien tourner tout simplement à la campagne électorale.
Stéphane Burgat à Fréjus pour Europe 1. Ce drame, cet après-midi en Isère, un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé près de Villard-de-Lans. 5 personnes étaient à bord de l'appareil. L'une d'entre elles est décédée et les circonstances de cet accident ne sont pas encore complètement connues, Zoé Palier.
Oui, ça s'est passé vers 16h30 sur les hauteurs de la commune de Villard-de-Lans et dans le massif du Vercors. L'hélicoptère venait en fait secourir un vététiste blessé. Mais en arrivant sur zone, il a perdu soudain en altitude avant de s'écraser. Plusieurs témoins racontent la même scène. 2 explosions qui retentissent, la fumée jaunâtre puis noire. C'est ce qui a alerté cet homme qui travaille en bas des pistes.
C'est un hélicoptère crashé avec 5 personnes à l'intérieur. Au début, ils se sont sortis eux-mêmes, mais ils étaient qu'à 2-3 mètres de l'hélico. Et après, on les a aidés à les mettre beaucoup plus loin quand l'hélico s'est vraiment embrasé. 15 minutes après, le deuxième hélicoptère qui est venu pour récupérer un blessé grave et le pilote qui était bouleversé. Les pompiers sont vite arrivés, mais bon, l'hélicoptère était un tas de cendres. Il y avait déjà eu les 2 explosions. Au bout d'un moment, on est parti parce qu'on ne servait plus à grand-chose.
Parmi les victimes, il y a donc au moins un mort. Il s'agit d'un mécanicien, membre de l'équipage. Le médecin du SAMU qui était à bord est quant à lui dans un état grave. 2 autres sont plus légèrement blessés. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour tenter de déterminer les causes de l'accident.
Zoé Palier, une actualité judiciaire demain avec l'ouverture du procès d'Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission de l'Élysée sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour des violences qu'il a commises en marge des manifestations du 1er mai 2018. Un scandale qui avait entaché le début du mandat d'Emmanuel Macron. 3 autres prévenus seront également à ses côtés. L'affaire, souvenez-vous, avait éclaté après les images vidéo dévoilées par le journal Le Monde montrant Alexandre Benalla et Vincent Crasse en train de molester des manifestants place de la Contrescarpe dans Paris. Et c'est notamment pour ces faits qu'Alexandre Benalla va devoir s'expliquer, Marion Dubreuil.
Oui, ce 1er mai 2018, Alexandre Benalla et son coprévenu Vincent Crasse accompagnaient les policiers chargés d'encadrer la manifestation en tant qu'observateurs. Mais l'ex-chargé de mission de l'Élysée et l'ancien agent de sécurité de La République En Marche sont sortis de leur rôle à plusieurs reprises. D'abord avec l'arrestation violente d'un homme au Jardin des Plantes et puis des violences à l'égard d'un couple place de la Contrescarpe alors que la situation dégénérait entre manifestants et CRS. Les deux prévenus réfutent les coups et parlent d'une interpellation population, il se retranche derrière les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale qui permettent à toute personne d'intervenir en cas de flagrant délit pour en appréhender l'auteur et le mener à un officier de police judiciaire. Deux policiers haut gradés de la préfecture de police de Paris seront également poursuivis pour avoir remis un CD avec des images de vidéoprotection à Alexandre Benalla le soir des révélations du quotidien Le Monde, comme pour l'aider à préparer sa défense.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Les sports, le tennis avec cet événement exceptionnel que vous suivez sur Europe 1, Novak Djokovic qui affronte en finale de l'US Open le russe Daniil Medvedev pour le titre. En cas de victoire, le Serbe pourrait réussir le grand chelem calendaire et porter à 21 le nombre de tournois majeurs décrochés par un joueur. Match très serré, le premier set a été remporté par le russe et les deux joueurs sont à égalité. Un jeu partout dans le deuxième set. Le football, suite et fin de la cinquième journée de Ligue 1. Lyon a battu Strasbourg 3 buts à 1 un peu plus tôt. Montpellier s'est imposé face à Saint-Etienne 2 buts à 0. Même score pour Nice face à Nantes. On passe à la météo, Valérie Darmon. Il va faire encore très doux demain.
Effectivement, ce lundi sera la journée la plus chaude de la semaine, avec 23 à 35 des Hauts-de-France au Pays Basque. Entre mardi et jeudi, les orages vont traverser la France. Ces orages qui feront baisser les températures d'abord dans l'ouest, mardi, et puis entre mercredi et jeudi, les températures qui vont baisser également dans l'est, mais le ressenti qui sera toujours assez lourd, sauf au passage des orages. Et puis en fin de semaine, on va se situer au niveau des normales de saison. En attendant, on profite de ce lundi.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est 23h11. Dans un instant, vous retrouvez la nuit Djokovic sur Europe 1 pour la finale de l'US Open.
Europe 1, la nuit Djokovic, Lionel Rosso.
L'histoire s'écrit à New York, à Flushing Meadows, avec cette finale très disputée, c'est vrai, entre Novak Djokovic et Dani Medvedev. Le premier set a été remporté par Medvedev 6-4, 2-1. Maintenant, dans le deuxième set en faveur du Serbe, on va retrouver évidemment Jean-François Pérez, Cédric Pioline, Antoine Bento pour le commentaire et l'analyse. Mais d'abord, on prend la température avec vous, Antoine Blancharel, à New York, à Flushing. Déjà, votre point de vue, votre sentiment sur la physionomie de la rencontre et vers qui le public a décidé de se retourner maintenant, qu'il soutient qui ?
Alors le public est toujours derrière Novak Djokovic, il le soutient énormément, il le pousse à chaque fois qu'il est en difficulté ou sur un point pour par exemple conserver son service. Malheureusement donc pour ce public, il a vu le Serbe perdre ce premier set, mais le Serbe a l'habitude, il a tout au long de ce tournoi, il a régulièrement perdu ses premiers sets. Mais on voit aussi une certaine tension chez Novak Djokovic et c'est du coup un petit peu propagé du côté du public qui est un petit peu tendu quand même, mais en même temps il continuera de pousser et il va se mettre en feu. On sait que le court Arthur Ashe, ce stade de plus de 20 000 personnes, est un vrai chaudron et donc l'ambiance va continuer de monter tout au long du match. Et on est vraiment en train de vivre une ambiance assez historique, vraiment à l'image du match.
Antoine Blancharel, en direct de New York pour Europe 1, on vous retrouve tout au long de cette soirée et de cette nuit, bien sûr. Direction Belgrade maintenant. Avec vous, Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 pour l'occasion. Vous étiez donc, vous êtes peut-être toujours d'ailleurs, Axel, dans le restaurant de Novak Djokovic où le match est diffusé. Parlez-nous de l'ambiance.
Oui, effectivement. Tout à l'heure, j'étais dans un bar du centre-ville. Maintenant, je suis dans le, enfin, juste devant, parce qu'on m'a dit le micro, faut pas le sortir dans l'enceinte du restaurant pour pas perturber les spectateurs qui sont nombreux hein, dans ce restaurant qui est situé alors dans un quartier d'habitation sans charme. En France, on parlerait d'un quartier HLM ou même d'une cité. Là, c'est assez classique hein, en Serbie, ce genre de quartier. Donc, dans cet quartier vraiment sans charme. Alors, c'est vrai que juste à côté, il y a l'aréna, hein, le stadium où se déroule l'Open de Serbie, ce qui permet à ceux qui y vont d'aller éventuellement ensuite au restaurant de Novak. Donc dans ce quartier, ce restaurant avec une énorme affiche hein, sur l'immeuble qui domine le restaurant, et puis un restaurant très cosy, très lounge, où c'est assez feutré hein, comme ambiance, un peu comme au tennis habituellement, hein, en tout cas à Roland-Garros, où c'est très feutré comme ambiance. Il y a des écrans un peu partout, c'est rempli, il y a même un écran géant où là, c'est réservé à ceux qui connaissent visiblement le propriétaire des lieux. Et juste avant que je prenne l'antenne, il y a eu une tentative de break dans le deuxième set de la part de Medvedev. Djokovic a réussi à remporter sa mise et donc à éviter d'être breaké. Alors là, il y a eu des clameurs assez gutturales du côté des Serbes. Lorsque vous l'entendez peut-être derrière moi, c'est en train à nouveau de crier lorsque Djokovic marque des points. Donc les gens mangent, les gens boivent avec modération en regardant ce match. Et j'étais venu déjà hier en repérage dans ce restaurant. Il y avait très peu de gens. Là, c'est vraiment rempli et il y a des grosses berlines allemandes garées devant la porte, j'imagine, à la famille de Djokovic qui tient le restaurant et qui vient régulièrement voir les matchs du fiston lorsqu'il est sur les courts. Donc ambiance qui monte en puissance au fur et à mesure que le match se déroule et vraiment du monde dans ce restaurant, le bien nommé Novak One, comme le numéro 1 mondial qu'il est.
On continuera à découvrir le menu de ce restaurant avec vous. On viendra à Belgrade avec Axel May, à New York bien sûr aussi avec Antoine Blancharel. Mais d'abord, Jean-François Pérez, Cédric Pioline, Antoine Bento, le match et cette finale donc entre Djokovic et Medvedev.
Une heure de jeu pile sur le central de Flushing Meadows et le score est de 6 jeux à 4 donc pour Medvedev dans le premier set, 2 jeux à 1 pour Djokovic dans la deuxième manche. Il n'y a pas eu de break qui est fait pour l'instant. Première balle de break là en l'occurrence sur le service de Medvedev. Il faut quand même vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques minutes, puisque Axel y faisait référence dans le deuxième jeu de cette deuxième manche. Eh bien Medvedev avait face à lui 3 balles de break, il a réussi à les sauver, à remporter le jeu, donc 5 points d'affilée pour le Russe, pour égaliser à un jeu partout. Et donc là c'est Djokovic qui petit à petit, Cédric Pioline, semble entrer dans des filières qui lui sont un petit peu plus familières.
Oui, en tout cas, on a vraiment le sentiment que le match s'est lancé avec des balles de break non converties des deux côtés, puisque, comme vous l'avez dit, Medvedev en a sauvé dans son jeu de service précédent, Novak Djokovic également. Là, Medvedev à nouveau fait face à une balle de break, donc ça s'est vraiment lancé, ça s'équilibre un petit peu, et avec un Medvedev qui commence là à servir un tout petit peu moins bien, et donc s'expose à des échanges, filière qui convient beaucoup mieux évidemment à Novak, qui à un moment, on se l'est dit, s'est tapé très très fort avec sa raquette sur les cuisses, et on se demande si effectivement il ne paye pas un peu la débauche d'efforts qu'il a effectué dans les tours précédents et notamment sa demi-finale.
Oui, bien sûr, qui était en 5-7 contre Zverev. On rappelle que Djokovic, pour se hisser en finale de cette US Open, a joué 17 heures et seulement 11 hein, pour son adversaire Daniil Medvedev, qui en plus, Antoine Bento, est plus jeune. Néanmoins, il semble moins intouchable Medvedev que lors de la première manche.
Oui, ça y est, Novak Djokovic est vraiment rentré dans sa finale, je trouve. Les échanges sont de plus en plus longs. On sent qu'il pose vraiment plus de problèmes sur le service du Russe et le Russe d'ailleurs. Mais qui son pourcentage de première balle a un petit peu baissé, ouais. Effectivement. Donc du coup, c'est vrai que pour Novak Djokovic, c'est plus facile pour retourner, même si là, sur cette deuxième balle, Novak Djokovic, Daniil Medvedev a servi quasiment une première balle sur la deuxième balle, il l'a suivi au filet et il sauve cette balle de break de façon... Très audacieux, ouais, j'ai envie de dire.
On revient à 40 A pour un jeu de service qui est extrêmement disputé, d'ailleurs à l'image d'un échange tout à l'heure vertigineux entre les deux joueurs. Le premier très long rallye, comme on dit, le premier très long échange de cette finale. 27 coups qui ont été échangés. Finalement, c'est à Medvedev que le point était revenu. Djokovic qui rate une nouvelle occasion donc de prendre le service du Russe et qui, Cédric, multiplie les gestes de nervosité.
On voit quand même à l'écran, même pour ceux qui nous écoutent, on décrit, on voit de la fumée qui commence à sortir, ouais, des oreilles du Serbe. La cheminée est en train de bouillir, même si c'est quand même sa troisième sur cette faute là de Medvedev en revers, en longueur. C'est sa troisième balle de break dans ce jeu. Donc attention, il est en train, je pense, d'aller dans sa filière habituelle, c'est-à-dire dans il se rebelle, il passe un petit peu dans la colère. C'est même pour ça que je me demande si finalement, pour le Serbe, c'est une... incroyable ce revers long de la ligne pour sauver cette balle de break. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour le Serbe que le public soit pour lui, lui donne de l'amour. Il n'aime pas ça.
Parce que ça lui rajoute de la pression, en fait.
Il n'aime pas. Il aime être dans l'adversité, le rebelle, le mal-aimé. Et je vais vous montrer que je peux le faire, quoi. Donc, quelque part, voilà, c'est peut-être qu'on avait mal à analyser les choses.
Il est en train de craquer nerveusement, là, Novak Djokovic. Alors, c'est étonnant parce que ce n'était pas sur une balle qui amenait un jeu pour Medvedev, mais en l'occurrence, il a cassé sa raquette. On peut dire ce qu'il y a. Il a tapé la raquette par terre plusieurs fois, Antoine, et il l'a cassé. Et du coup, on va se retrouver avec un avantage pour Medvedev pour revenir à deux jeux partout, mais surtout avec un Novak Djokovic qui ne donne absolument pas des gages de sécurité mentale, j'allais dire.
Ouais. Et puis, c'est des fautes qui le rendent fou, ça. Il était clairement sur ce retour de coup droit, il était en place. Donc, quand il fait la faute comme ça en retour, ça le rend dingue parce que c'est un coup qu'il adore, qu'il affectionne, c'est son point fort. Il sait que s'il veut revenir dans cette finale, s'il veut poser des problèmes à Medvedev, il sait que ça va passer par là, par une grande régularité sur ce coup-là, et donc quand il rate un... Pour lui, c'est un coup facile. Et donc là, ça a été la goutte d'eau pour l'instant qui a fait déborder son vase. Effectivement, on voit la fumée qui sort des oreilles.
C'est clair, hein, et encore une faute directe sur un deuxième service qui n'avait rien d'insurmontable pour un Novak Djokovic à 100% de son niveau. Cédric, deux jeux partout. Lionel, on va peut-être revenir vers vous pour continuer de débattre de ce match. Et voit le visage de l'épouse de Novak Djokovic, Yelena, qui semble encore plus préoccupée que d'habitude. Et
pour bien mesurer les enjeux, au-delà évidemment du direct, de l'analyse sportive que vous faites brillamment, comme à chaque fois, Jean-François, Cédric et Antoine. Non, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, on est aussi une radio généraliste, donc pas toujours exclusivement spécialiste tennis, pour bien comprendre la rivalité qui existe entre Djokovic et ses poursuivants, ou en tout cas les champions avec qui il est à égalité, c'est-à-dire Federer et Nadal. Est-ce que cette rivalité, Antoine Benneteau, est réelle? Est-ce que véritablement il se tire la bourre, il compte les points? Et est-ce que par exemple ce soir on peut imaginer un Nadal ou un Federer en train de regarder la télé, en train de dire vas-y Djoko, ou au contraire vas-y Dani?
Alors, je suis pas sûr. Si eux ne sont pas devant la télé, il y a au moins un ou deux ou trois membres de leur staff qui est devant, ça c'est sûr. Je pense effectivement, ils savent qu'ils sont sur cette lutte dingue du nombre de titres de Grand Chelem. On rappelle que les trois sont à 20 titres du Grand Chelem et que effectivement, il y a ce titre de plus grand joueur de tous les temps en jeu. Et on sait bien sûr que Roger Federer, qui a 40 ans, vieillissant, donc on a du mal à imaginer un Roger Federer remporter encore un titre du Grand Chelem. Raphaël Nadal, c'est une autre histoire, même si on a vu récemment qu'il s'était fait opérer de son pied douloureux, le pied gauche, on le rappelle. Donc c'est vrai que Novak Djokovic est pour l'instant est en piste pour dépasser ses deux rivaux. En plus, il faut savoir que Roger Federer et Raphaël Nadal bénéficient auprès du grand public d'un amour un peu plus grand que celui de Novak Djokovic. Donc le Serbe sait que s'il veut vraiment remporter ce titre de plus grand joueur de tous les temps, s'il veut passer, il doit faire quelque chose en plus. Et ça passe par une victoire ce soir, ça passe par ce grand chelem calendaire. On le rappelle, remporter les 4 tournois du grand chelem la même année. Et ça passe par passer à 21 titres du grand chelem s'il le remporte ce soir face à Medvedev.
Cédric, est-ce qu'il est vraiment apprécié Djokovic sur le circuit en interne? Est-ce que c'est un gars sympa ou un gars qui fait le sympa?
Non, c'est comme partout. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a d'autres peut-être moins, mais c'est vrai que il fait aussi. Il n'est pas forcément le plus aimé, comme vient de le dire Antoine, du grand public, mais il fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas forcément. Il a sa fondation, il aide beaucoup les joueurs serbes, il les aide beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir du cœur aussi. C'est pas quelque chose forcément qui se ressent sur le court. C'est un joueur qui vient des pays de l'Est, ils ont une formation qui est beaucoup plus dure que nous ce qu'on connaît en pays latin. Donc il est en recherche, en tout cas, je pense de ça. Ça vient moins naturellement que pour d'autres, mais il travaille dessus.
Retour au jeu, Jean-François Pérez.
Oui, deux jeux partout dans cette deuxième manche. On rappelle que c'est Medvedev qui a remporté la première 6 jeux à 4 et qui contrarie pour le moment un petit peu les desseins de Novak Djokovic. Il a remporté son 21e titre du Grand Chelem. Vous vous rendez compte quand même qu'on a 3 joueurs à 20, Federer, Nadal, Djokovic. Et savez-vous qui avant était le détenteur du record, Lionel? et combien de victoires il avait. C'était Pete Sampras qui était à 14. On a trois joueurs à 20 et Pete Sampras est à 14. C'est dire le moment du tennis, le moment extraordinaire du tennis qu'on est en train de vivre. Ça va être compliqué ce soir pour Djokovic parce que même au moment où Medvedev semble un petit peu baissé en intensité, un petit peu moins d'efficacité au service, eh bien Djokovic commet des fautes qui ne sont pas forcément très belles à voir. Et il se retrouve sur son service avec deux balles de break à effacer désormais. 15-40 sur le service de Novak Djokovic. La première balle est bonne et le retour de Daniil Medvedev est largement dehors. Donc deuxième balle de break à venir pour un Novak Djokovic qui n'arrête pas de s'injurier parce que je pense qu'il est tout à fait conscient de ne pas être à la hauteur de l'événement. Je vous donnerai la parole tout de suite après cette deuxième balle de break. On va voir si le numéro 1 mondial est en mesure ou pas de pouvoir l'effacer avec ses traits émaciés, très tendus qu'il a sur le visage depuis le début de cette finale. Encore une première balle de service qui paraissait bonne mais qui était légèrement dehors. Il va falloir qu'il prenne des risques, Novak Djokovic, parce que le retour de Medvedev sur la deuxième balle devrait être assez efficace, peut-être même décisif. Attention, la trajectoire, l'effet, tout ça va avoir évidemment beaucoup d'importance. C'est parti, une deuxième balle classique, on va dire, qui pousse Medvedev à aller loin derrière sa ligne de fond et un échange qui s'installe en coup droit entre les deux zones. Djokovic qui monte au filet, qui rate complètement sa volée de revers et Daniil Medvedev qui prend le service du Serbe et qui mène de nouveau dans cette deuxième manche, qui prend les commandes, Cédric Pioline. C'est vraiment une finale qui tourne vinaigre pour l'instant pour le Serbe.
Oui, avec sur ces cinq premiers jeux, quasiment quatre jeux où il y a eu des balles de break dans les deux sens. Finalement, ça y est, le break est effectué pour le Russe. C'est vrai que le scénario est évidemment idéal du côté du Russe, un petit peu catastrophe pour Novak. Surtout, l'impression que ça donne, c'est que physiquement, alors bon, il a ses gestes d'énervement, cette attitude où il essaie de se motiver, de se rebeller de la manière qu'il montre. Mais surtout, physiquement, il donne des petits signaux de moins bien, de pas bien, il est pas dans le rythme, il est peut-être un petit peu moins rapide. Et puis surtout, le scénario du match avec maintenant un set et un break de retard avec un Medvedev qui forcément prend de plus en plus confiance.
Medvedev qui prend confiance et qui est à l'aise, c'est vrai, Antoine Bento, sur cette surface. Est-ce que c'est le cas aussi de Djokovic? Est-ce qu'il a une préférence par rapport aux surfaces et par rapport au lieu de ces tournois du Grand Chelem? Est-ce qu'il est chez lui à l'US Open? Comme par exemple Nadal pourrait l'être à Roland-Garros, vous voyez?
Alors s'il y a un endroit où Novak Djokovic est chez lui, c'est à l'Open d'Australie qu'il a déjà remporté 9 fois.
On peut même dire que c'est le Nadal de l'Open d'Australie.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que le ciment est certainement la meilleure surface de Novak Djokovic. En revanche, c'est aussi la meilleure surface de ses concurrents. Donc, ça ça égalise un petit peu. Mais il y a surtout un aspect que je trouve intéressant et je veux le décrire pour ceux qui nous écoutent, c'est que Daniil Medvedev est un joueur qui normalement n'aime pas trop s'encourager, n'aime pas trop montrer. Et là, ça fait déjà plusieurs fois que il lève le poing, qu'il va chercher la foule. Il sent que il tient le bon bout, qui va avoir besoin du public et qu'il n'a pas envie que ce public se retourne et aille soutenir ou plus supporter Novak Djokovic. Il sent qu'il doit enfoncer le clou là, puisqu'il s'apprête à servir pour confirmer le break qu'il vient de faire. Donc c'est assez intéressant de voir un Daniil Medvedev qui normalement est assez calme et montre assez peu de choses, qui là serre un petit peu plus le poing et qui va un petit peu plus chercher le public.
Retour au jeu, Jean-François, avec ce Djokovic-Medvedev. On le rappelle, si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Europe 1, soirée spéciale, nuit Djokovic, la finale de l'US Open avec Djokovic qui pourrait en cas de victoire, même si on le rappelle, c'est Medvedev qui a remporté le premier set et que dans le deuxième, pour l'instant, Medvedev est devant. Il mène 3-2. Bien, en cas de victoire finale, Djokovic remporterait 21 titres du Grand Chelem dans sa carrière et deviendra donc le meilleur joueur de tous les temps, disons-le. Il y aurait aussi à la clé le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire les quatre tournois majeurs de l'année. Il aurait remporté Wimbledon, l'Open d'Australie, Roland-Garros et donc l'US Open. Djokovic, Medvedev, Jean-François Pérez.
Oui, c'est absolument vertigineux et on remercie la direction d'Europe 1 qui a accepté ce soir d'ouvrir l'antenne pour cette opération quasi inédite. Un match de tennis en intégralité 23h30 à Paris. On n'est peut-être pas couché parce que Djokovic, vous le savez, aime beaucoup les courses à handicap et là, ce qui lui est proposé ce soir est absolument remarquable parce que Daniil Medvedev mène 6 jeux à 4, 3 jeux à 2 et 30-0 désormais avec un nouveau coup droit qui a fait mouche, Cédric.
Ah oui, c'est impressionnant l'échange là que... ils ont effectué avec ce coup droit gagnant là, décroisé de la part du Russe. Il est vraiment dans sa zone. Et comme l'a dit très justement Antoine, il lève le point. Il est démonstratif, beaucoup plus qu'à l'habitude. Et puis surtout, je pense que après ce petit passage à vide au service, j'ai l'impression qu'il est reparti. Donc bien parti en tout cas pour confirmer son break avec 40-0.
Incontestablement le cas avec un Djokovic qui risque de perdre ce jeu blanc assez facilement puisqu'il a 40-0 hein, pour Medvedev sur son propre service. 3 balles donc pour mener 4 jeux à 2 dans le deuxième set. Medvedev qui mène déjà 1-7-0, donc 6-4, 3-2 et 3 balles de 4 jeux à 2 pour le Russe qui en est déjà 11 aces depuis le début de cette partie, qui sert encore là une très bonne deuxième balle, qui envoie un coup droit très, très efficace. Mais Djokovic parvient pour une fois à trouver la parade. Il monte encore au filet le Serbe et il me semble qu'elle est faute cette balle. Elle termine sa course dans le couloir. 4 jeux à 2 pour Medvedev qui confirme son break et Antoine sa mainmise sur ce match.
Oui, on sent quand même que Novak Djokovic a raté vraiment cette fenêtre en début de seconde manche où il a eu des balles de break pour essayer de, voilà, de revenir, de même de se rassurer au score. Et là, il n'a pas réussi à faire ses occasions. Il a eu notamment une des balles de break qu'il a joué contre Medvedev dans ce début de deuxième manche où il pouvait faire le point où Daniil Medvedev avait raté une amortie et Novak Djokovic l'a très mal négocié. Et puis depuis, Daniil Medvedev est revenu au niveau et joue de mieux en mieux. C'est assez inquiétant franchement pour Novak Djokovic puisque au début Medvedev servait très bien et au fond de court se contentait d'être solide, et là maintenant il commence quand même à être très 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 percutant du fond de court et on sent un petit peu un Novak Djokovic un peu résigné qui enchaîne les fautes directes. Ça devient quand même inquiétant pour
le
Serbe.
C'est vrai, déjà 20 fautes directes pour le numéro 1 mondial contre 18 à Medvedev, mais il faut dire aussi, et quand même pour relativiser un peu ce qu'on voit, parce que c'est vrai que c'est relativement inquiétant hein, depuis 1h15 de jeu à peine, de voir un Djokovic qui semble déjà piocher un petit peu, qui écourte l'échange, qui commet beaucoup de fautes directes, beaucoup trop en tout cas pour son adversaire du jour, pour espérer autre chose qu'une défaite. Mais on a vu le Serbe revenir tellement de fois alors que le scénario paraissait écrit contre lui en sa défaveur que bon, on va se garder évidemment de tirer toute conclusion. Il vient encore une fois là au filet, il risque de se faire lober par Medvedev. Il parvient à remettre cette balle, mais son smash évidemment n'était pas le bon parce qu'il était en train de reculer. Il perd ce point, Djokovic, sur le reculoir vraiment. 30-0 pour Medvedev sur le service du Serbe, hein, Cédric Pioline. Ça veut dire que là, il faut réagir très très vite.
Oui, le fameux 7e jeu.
Oui, c'est vrai.
0-30, en bonne position pour peut-être shipper, si j'ose dire, une deuxième fois le service de Novak. Ça serait quasiment synonyme de deux manches à zéro avec, avec la façon dont le Russe sert. Donc oui, il faut réagir en tout cas.
Oui, et Novak Djokovic s'y emploie. Il vient de revenir à 15-30, profitant d'un retour qui était dehors de la part de Daniil Medvedev. Novak Djokovic concentré sur sa balle. Vous savez que c'est quelqu'un qui, d'habitude, prend énormément de temps hein, pour servir, qui fait le point, qui pratique ce qu'on appelle la respiration consciente. On vous expliquera peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit. Toujours est-il qu'il envoie une première balle beaucoup trop longue. Deuxième balle à suivre. On rappelle l'enjeu de ce point. Si jamais le Serbe le perd, ce sera 2 balles de break, 2 balles de 5 jeux à 2 dans le deuxième set pour Medvedev, qui mène déjà 1-7-0. C'est parti pour cette deuxième balle qui est cette fois dans le court. Djokovic qui essaie d'allonger en coup droit. La bonne défense de Medvedev qui parvient à garder lui aussi la balle dans le court. On rappelle que tout à l'heure, il a fallu 27 coups pour que les hommes arrivent à se départager. Cette fois, c'est Medvedev qui commet la faute en premier. Djokovic, Cédric, qui revient à 30 partout.
Oui, 30 partout sur cette faute. Et attention, parce que... on sait qu'en tennis, ça peut aller très vite. Et quand il y a des occasions, hein, et à leur niveau, hein, 0-30, c'est une occasion. Ce n'est pas évidemment une balle de break, mais c'est une occasion. Là, deux fautes de la part du Russe. Il faut en profiter, en tout cas, avec cette bonne première pour s'offrir une balle de jeu de la part du Serbe, mais profiter des occasions qui sont offertes. Alors après, c'est évidemment, la théorie est facile. Et puis en regardant, on se dit, mais pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça. Sur le court, c'est une autre histoire. et en tout cas une possibilité de recoller.
Ouais. Et Djokovic qui est revenu grâce à son service dans ce set. On voit qu'il a, il affiche un taux de 90% de réussite sur sa mise en jeu. Pour l'instant, ça le tient en vie, on va dire. Et il confirme cet état de fait, puisque après avoir été mené 0-30, il emporte ce jeu. Il revient le Serbe. Mais on rappelle qu'il a tout de même encore un break de retard. 4 jeux à 3 pour Medvedev, qui mène un 7-0 face à Djokovic.
Et beaucoup d'appels, beaucoup de SMS également, et sur les réseaux sociaux, pour savoir de quoi s'agit-il quand on parle de respiration consciente. Donc là, moi, j'ai besoin de savoir.
Jean-François, allez-y.
Vas-y. Ouais, allez-y, Jean-François, parce que...
Ah bon, parce que ni Cédric ni Antoine ne connaissent la respiration
consciente.
Si,
mais
consciente.
On
ah bon.
Sait, mais on veut savoir ce que Jean-François en pense.
Ah, d'accord. Alors,
allez-y. Bon,
moi, je trouve que c'est un concept qui est, on va dire, un petit peu éventé, si on peut faire un jeu de mots entre la respiration et le fait que ce soit éventé. Mais la respiration consciente, bah, ça veut dire exactement les deux mots, c'est-à-dire qu'on respire en ayant conscience qu'on respire. Non, en fait, c'est une forme de méditation très rapide. C'est-à-dire que quand on respire, on inspire très fortement, on pense qu'on respire et normalement, on arrive à se remettre des idées en place quand on a quelques petits soucis. Je me fais applaudir.
Bravo, bravo. Antoine Bento, c'est ça, ça sert la respiration consciente ou c'est un gadget ?
Non, mais j'ai écouté religieusement Jean-Claude Van Damme, c'était très très bien. Non, ça sert effectivement et puis on sait que Novak Djokovic est très adepte de ces pratiques-là et là, il est surtout quand même très, très soulagé de cette sortie de ce jeu-là. Allez, il s'est maintenu en vie dans ce set. Il a encore un break de retard, mais il s'est maintenu dans ce set et on l'a vu effectivement souffler, respirer. Il change même de chemise là à la fin de ce jeu. J'ai l'impression qu'il espère que ça va être un nouveau début dans ce match pour lui de s'en être sorti de ce jeu.
Avant que le match ne reprenne, qui est le changement de côté effectif, un détour par Belgrade avec vous, Axel May. Le Serbe en difficulté, il a perdu la première manche. 4-3 dans la deuxième maintenant. Comment réagissent ses supporters à Belgrade ?
À un moment, on les a sentis un peu dépités, enfin, clairement après la perte du premier set, et puis à nouveau remontés avec des cris dans la salle du restaurant de Novak Djokovic, où c'est, la salle est pleine, hein, et il y a des gens qui continuent encore à arriver. Là, il y a un taxi là, qui vient de déposer une charmante jeune fille. En fait, on s'est habillé sur 131 hein, pour venir assister à ce match. Il y a, j'allais dire, toute la bourgeoisie, je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que ça donne, toute la bourgeoisie de Belgrade qui est présente dans ce restaurant. Ou alors je sais pas quels sont les règlements, mais en tout cas les gens fument dans le restaurant, ont mangé, là sont en train de boire des boissons plus ou moins alcoolisées. Et il y a plusieurs petits écrans et puis un grand écran où est projeté donc le match. Alors c'est et les commentaires des journalistes serbes. Donc voilà, l'ambiance c'est crescendo et puis c'est un petit peu aussi les montagnes russes. L'ambiance que l'on peut sentir dans cette salle.
Et il faudra nous expliquer les boissons plus ou moins alcoolisées. Ça, je ne sais pas si c'est alcoolisé ou si ça l'est pas. Évidemment, Axel, merci évidemment. Vous parliez tout à l'heure de personnes qui fument. C'est vrai, c'est Cédric qui disait tout à l'heure que c'était les oreilles de Djokovic qui fumaient. Ça y est, c'est reparti. Jean-François Pérez pour cette finale entre Medvedev et Novak Djokovic.
Oui, mais le problème, c'est que le Russe ne fait rien pour que la vapeur de fumée devienne rien, en fait. Parce que tout va mal pour Djokovic dans cette fin de deuxième manche. 4 jeux à 3 pour Daniil Medvedev et 40-0 pour le Russe sur son propre service. 3 balles donc pour mener 5 jeux à 3, se détacher et se rapprocher du gain de cette deuxième manche. Un long échange, mais des gifles de coups droits qui font énormément de mal à Djokovic, qui parvient à relancer. Mais l'échange se poursuit, un contre-pied de Medvedev qui réussit un jeu blanc, 5 jeux à 3. Et je peux vous assurer ici en studio qu'on apprécie ce moment, Lionel, parce que le niveau de jeu de Daniil Medvedev est tout simplement époustouflant depuis le début de cette finale.
Bien justement, on va aller faire un petit tour à Belgrade encore avec Axel May qui a trouvé des supporters francophones, me semble-t-il. Est-ce que vous êtes en ligne, mon cher Axel ? Parce que je crois que vous étiez allé chercher juste à côté du restaurant ces supporters, ils sont là avec vous.
Vous venez parce que c'est spécial.
Mon cher Axel, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1.
Et avant, vous êtes déjà...
Très bien, alors là, il est en train de caler son interview, Axel May, en fait, pour tout vous dire. On vous raconte
avec la charmante jeune fille.
Il prépare, voilà, exactement, c'est ça. Il l'a vu descendre du taxi et il a dit « Je travaille dans le restaurant, je vais vous guider ». On vous retrouve donc pour le match, parce que ça reprend avec Djokovic qui est au service.
Oui, bien sûr, parce qu'à 5-3, il n'y a pas de changement de côté. Donc, on va vite, on va même trop vite côté Novak Djokovic. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce qu'on a l'impression qu'il bâcle un petit peu peu ces transitions entre les points. D'habitude, c'est le maître hein, avec Nadal du temps gagné. Parfois même, il exagère un petit peu. Il est très rarement pénalisé pour cela. Il prend son temps. Là, on a l'impression qu'il se précipite comme s'il voulait que ça aille le plus vite possible. Et ça tourne en sa défaveur. 5 jeux à 3 donc pour Medvedev. 15-0 pour le Russe sur le service de Djokovic qui va recoller à 15 partout grâce à une bonne première balle. Mais on sent encore une fois, c'est une constante de cette finale. Cédric, il vient terminer le plus vite possible ses points au filet. Ce n'est pas le Novak habituel.
Oui, trop vite, comme on l'a déjà souligné. Mais, en fait, c'est le seul secteur, hein, je dirais, qui marche bien. Il tient beaucoup grâce à son service et à quelques prouesses hein, au filet sur certains points. Par contre, il a beaucoup de mal dès que beaucoup de mal sur le service tout simplement du Russe et puis dans les finalement là où il est normalement excellent et même le meilleur du monde dans les filières un petit peu plus longues dans les échanges rythmés où c'est plutôt le Russe qui a l'avantage.
Oui, alors 30-15 hein, désormais pour le Serbe sur son service qui parvient à rétablir une forme d'équilibre, essayer de revenir à 5-4. Mais Antoine, on a l'impression qu'il est un petit peu sur courant alternatif en fait.
Mais c'est,
un point oui, un point non.
Ouais, mais c'est un petit peu des signes de fatigue quand même. J'ai l'impression que son placement est moins précis que d'habitude. Et quand il joue très bien, quand Djokovic fait ce qu'il faut, on l'a vu au jeu précédent, Nadal Medvedev a du répondant et sort encore un coup au-dessus, augmente son niveau de jeu à chaque fois que Novak Djokovic essaye de faire plus, de frapper plus fort, de se rapprocher des lignes. Et là, il a évité la balle de deuxième manche sur ce lob trop long de Daniil Medvedev et il y a maintenant 40-30 pour Djokovic sur son service, mais on sent que voilà, à chaque fois que Djokovic essaye de monter, Daniil Medvedev trouve la parade. C'est compliqué hein, pour, oui. Il est clairement en train de lutter, la Novak Djokovic.
Absolument, il a une balle néanmoins pour revenir à 5 jeux à 4, la première balle qui ne sera pas bonne, il me semble qu'elle était lette même, donc Novak Djokovic qui va essayer de sauver son service, d'aller se reposer 1 minute 30 à 5 jeux à 4 en sa défaveur dans ce second set. Une deuxième balle qui était bien partie, il monte au filet et il va parvenir sans doute à conclure Novak Djokovic. Voilà qui est fait, 5 jeux à 4, mais c'est Medvedev, c'est bien Medvedev Lionel qui mène et qui dans 1 minute 30 va servir pour le gain de la deuxième manche.
Alors justement, moi j'ai une question qui me semble d'importance parce qu'on parle beaucoup de récupération. C'est vrai que Djokovic a passé beaucoup de temps, notamment cette semaine sur le court, sans doute plus d'ailleurs que Medvedev, mais il y a aussi une vraie différence d'âge entre les deux joueurs. 9 ans d'écart, si je ne m'abuse, et ça doit compter, Antoine Bento, j'imagine, à ce stade, dans une finale comme celle-là, les 9 ans d'écart, on les sent. Hein.
On les sent
quand il y a un décalage de 9 ans.
La chose pour Novak Djokovic, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à 34 ans, il est clairement ce qu'il se fait de mieux physiquement. C'est une machine quand il est en forme. C'est juste le meilleur joueur, je pense, sur le circuit. Il a des proportions parfaites. Il se déplace parfaitement. Il est très lax. Et c'est pour ça que ce soir, on insiste et on répète au fur et à mesure qu'on voit les points. On sent que physiquement, il est quand même un petit peu emprunté. Et c'est... le point fort aussi de Daniil Medvedev, c'est qu'on a parlé de sa taille, 1m98, mais il arrive à déplacer cette grande carcasse très très bien. Donc franchement, c'est pas facile ce soir pour engager le combat physique pour Novak Djokovic.
Ouais, et c'est l'élasticité aussi de Djokovic qui souvent lui donne raison dans des matchs au long cours comme ça, avec des rencontres qui peuvent se dérouler en 5-7. Encore que là, on a plutôt l'impression que Medvedev a envie d'en terminer si Djokovic continue à rester sur courant alternatif. C'est vrai que il a une corpulence, une proportion et une élasticité du corps, Antoine, qui lui permet d'aller sur beaucoup de balles et de récupérer vite.
Exactement. On a en tête, quand on le voit se déplacer, c'est notamment ses fentes en bout de course où il est capable de glisser, même sur ciment, que ce soit sur gazon aussi. Mais là, sur ciment, on le voit, il est capable de poser une fente, de glisser, de bloquer et de repartir. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Il en fait partie. Et là, ce soir, franchement, on sent que c'est notamment sur le petit jeu de jambes, il est un peu moins précis et du coup il fait des fautes que normalement il ne fait pas, et en plus ça l'agace, donc ça joue aussi sur son mental.
Medvedev au service pour mener 2-0 dans cette finale. Il a remporté la première 6-4, 5-4 donc dans la deuxième. Jean-François Pérez.
Oui, 1h27 de jeu, déjà 15-0 suite à un nouvel ace pour Medvedev. C'était le 11e depuis le début de ce match pour le numéro 2 mondial, pour le russe. 15-0 donc, une deuxième balle à venir. Il n'est donc plus qu'à 3 points donc du gain de ce deuxième set, et il se détacherait 2-0 face au numéro 1 mondial. Encore un set pour ace pour Medvedev. 30-0 déjà. Cédric, ça va très vite.
Oui, ça va très vite. Il est clairement en confiance, le russe. Il sent que il a vraiment une possibilité de mener 2-7-0. Et pour l'instant, depuis le début du match, à part ce petit peut-être flottement en début de deuxième manche, il n'a pas eu vraiment de trous, le russe. Donc il sent que c'est là. Il a aussi beaucoup d'expérience de se dire qu'à un moment... Oh, c'est superbe.
Il arrive magnifiquement, Medvedev, au filet, à venir chercher cette contre-amortie hein, de Djokovic, et il la remet en effet dans les limites du terrain. 40-0, ça veut dire 3 balles de 7 pour Daniil Medvedev face à Novak Djokovic. 3 balles de deuxième set, ça voudrait dire que si il marque le prochain point, eh bien le russe mènera 2-7-0 face à Djokovic. On rappelle que lors de leur dernier rendez-vous en Grand Chelem il y a quelques mois en Australie, Djokovic s'était imposé en 3 petits sets. Il avait vraiment littéralement écrabouillé, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça.
Ouais.
Le russe, là, ce soir, c'est une toute autre histoire. Deuxième balle et une double faute à venir là pour Medvedev. Peut-être un petit peu le bras qui tremble après ce jeu qui était sur le point de devenir un jeu blanc.
Il a cherché l'ace. Hein.
Ouais, exactement. Peut-être va-t-il faire la même chose. Deuxième balle de 7 pour Daniil Medvedev. C'est parti pour le russe. Encore un service qui accroche la bande du filet. Une deuxième balle à venir pour le numéro 2 mondial face à un Djokovic qui ne bouge pas, totalement statique juste derrière la ligne de fond. Il renvoie bien en revers Djokovic. Il va peut-être falloir qu'il essaie de stabiliser cet échange. Il accélère même là en revers. Il essaie de prendre des risques. Coup droit, revers, les deux hommes qui engagent un long échange, un rallye. Oh là, ça frôle la ligne là de la part de Djokovic, mais la balle reste néanmoins dans les limites du terrain. Long échange et échange de coup droit avec un Medvedev qui craque sur ce revers qui sort légèrement dans le couloir. 40-30 pour Medvedev, et un Djokovic peut-être qui après ses 18 coups va avoir besoin de souffler. Cédric, c'est un bel échange.
Ouais, ouais, super. Bon, on sent que ça cherche le chaos, et c'est plutôt Medvedev hein, qui a eu besoin de souffler, qui a été dans son coin pour chercher sa serviette sous les yeux de Brad Pitt
notamment
qui est là
notamment. Mais il y a le tout Hollywood hein. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais j'ai noté quelques noms de célébrités. C'est absolument extraordinaire, c'est presque le festival de Cannes. 6-4, 5-4, 40-30 pour Medvedev qui a peut-être un pénalty à jouer. Oh non, c'était pas forcément très bien. Djokovic qui craque. Oh là là, parce que là c'était trop simple. Il avait vraiment eu le coup qu'il ne fallait pas, Medvedev, parce qu'il avait offert plein axe à Djokovic alors qu'il était monté au filet, une espèce de petite balle sans rythme, sans consistance. Et Djokovic, au lieu d'arriver à punir le russe, à terminer le point, eh bien a mis en revers largement dans le couloir. 2-7-0 pour Daniil Medvedev, la machine Djokovic. Lionel est déréglé après 1h30 de jeu.
2-0 qui l'eût cru, effectivement. C'est Medvedev qui a l'avantage. On va aller à New York, à Flushing, retrouver Antoine Bancharel. Antoine, pour avoir votre sentiment sur ce qui pourrait être un tournant dans cette finale. C'est assez inattendu, en tout cas, que Medvedev remporte ses deux manches aussi facilement, j'ai envie de dire, Antoine.
Oui, effectivement, il a vraiment cette tactique où il envoie quasiment que des premières balles. Et du coup, il se gagne aussi un petit peu l'affection du public. Il commence à se tourner vers eux, à monter le point en l'air pour un petit peu leur montrer qu'il est là pour gagner et que, bah, quelque part, s'il prend leur soutien, ça lui va bien aussi, ce qui est un petit peu en train de se faire. Et du coup, là, on sent encore plus de tension qu'il y avait déjà à la fin du premier set. Donc, forcément, les supporters de Novak Djokovic vont pousser plus fort, vont pousser plus dur. Sur les 23 771 du cours Arthur Ashe, on doit avoir à peu près 20 000 qui sont derrière Novak, mais la tendance s'inverse un petit peu, et surtout, Novak Djokovic ne se tourne pas trop vers le public. Il l'a dit qu'il était vraiment concentré sur lui-même pour cet effort, qu'il ne voulait pas avoir de distraction extérieure pour enfin passer cette marche historique. Malheureusement, là, ça joue un petit peu contre lui au niveau du public parce qu'il n'arrive pas à un petit peu les emballer vers lui. Donc on va voir un petit peu s'il va changer à ce niveau-là au moment du troisième set qui maintenant devient un petit peu celui de la mort pour lui.
Avez-vous remarqué, Antoine Bancharel, plus de gestes d'énervement que d'habitude chez Novak Djokovic aujourd'hui ?
Effectivement, et ils sont venus très très vite. Il a eu ce premier break dans le premier jeu où c'était difficile pour lui. Et quand ensuite il a eu trois balles de débreak et qu'il les a toutes manquées à la fin de la troisième, il a commencé à se taper les jambes, même avec sa propre raquette. La frustration est vraiment là. Au lieu de justement se tourner un petit peu vers le public pour chercher du soutien, il se tourne vers lui-même. Quelque part, il se parle à lui-même de manière assez agressive. Il y a eu un moment, un échange où il est revenu sur le court et il s'est un petit peu adressé à l'arbitre aussi en disant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pour lui autour. Clairement, il y a une forme de déstabilisation chez le Serbe en ce moment.
Merci Antoine, à tout à l'heure dans cette soirée, cette nuit Djokovic. Le Serbe mené deux manches à zéro par Medvedev. Le troisième set démarre à l'instant. On retrouve Jean-François Perret, Cédric Pioline et Antoine Bento.
Ouais, 6-4 désormais. C'est un match au mieux en 5-7 pour Novak Djokovic, hein, puisque on le rappelle, si Daniil Medvedev remporte cette troisième manche, c'est terminé. Les rêves de 21e titre en Grand Chelem seront à remiser pour les prochains mois ou les prochaines années, en espérant bien entendu, si ce devait être le cas, que Novak Djokovic ne buterait pas comme Serena Williams le fait depuis tant d'années, hein, sur le record de Margaret Court. Le premier point dans cette troisième manche et pour Novak Djokovic sur son service. Alors Antoine, on va peut-être donner quelques statistiques qui parlent, hein, bien sûr. Les aces 12-5 pour l'instant pour le Russe. Le point gagné sur premier service, c'est plutôt pas mal, et ce qui a permis finalement à Djokovic de faire durer, j'allais dire, ce deuxième set, parce que le premier avait duré 37 minutes, le deuxième 53. Donc ça veut dire malgré tout qu'il y a peut-être un petit peu plus de matchs, que ça se densifie un petit peu plus malgré le résultat négatif. Et puis il y a aussi les fautes directes, elles sont davantage pour Novak Djokovic. Hein, 24-21, normalement c'est lui le robot dans ce genre de circonstances.
Ouais, normalement c'est lui clairement le joueur le plus régulier sur le court. Et là ce soir, ce n'est pas le cas. Est-ce que Novak Djokovic va réussir à faire ce qu'il a fait à Roland-Garros, c'est-à-dire revenir en étant mené de 7-0, ça va être une grande question. On a quand même l'impression qu'il est moins bien que ce qu'il n'était à Roland-Garros. Donc là, il y a quand même un vrai point d'interrogation là-dessus. Est-ce que Daniil Medvedev va aussi être capable de maintenir ce niveau d'intensité ? Ça aussi, ça va être intéressant et ça va être une clé de cette troisième manche.
Alors, on va vivre la fin de ce premier jeu avec un passing de coup droit qui fait mouche là de la part de Medvedev. Mais il faut dire que Djokovic, qui était monté un petit peu à contre temps, a donné quand même de l'espace, trop d'espace sans doute, à son adversaire qui s'en est saisi. 30-15 pour Novak Djokovic dans ce premier jeu. C'est lui, hein, quand même, qui est en tête là, à l'entame, donc à l'appel de ce troisième set à Flushing Meadows, avec des tribunes qui sont pleines. Hein. On parlait du casting hollywoodien. On a vu Leonardo DiCaprio, on a vu Spike Lee, on a vu Brad Pitt, on a vu Ben Stiller, et puis côté tennis, Stan Smith, ou encore Rod Laver, parce que Rod Laver, ce soir, sera peut-être pas dépossédé, mais en tout cas sera égalé, puisque l'Australien est le dernier à avoir réussi le Grand Chelem calendaire, les quatre tournois du Grand Chelem la même année. C'était en 1969, juste après le début de l'ère Open, quand il n'y avait plus de distinction, quand le circuit était devenu professionnel. Un long échange à venir avec un revers à demain qui semble faute. En effet, 30 partout. Djokovic qui avait remporté les deux premiers points, Cédric, et qui se fait remonter là par Medvedev.
Oui, qui se fait remonter, mais surtout, c'est vrai que en nous écoutant, j'ai l'impression qu'on est tellement focalisé sur Djokovic qu'on minimise un petit peu le niveau de jeu. On ne parle pas assez du niveau de jeu que développe le Russe depuis le début de cette partie. Pour l'instant, il fait le match qu'il faut, il sert très bien, il fait quelques fautes, mais c'est pas scandaleux. Et surtout, il s'offre une nouvelle fois, dès son premier jeu, dès le premier jeu de service du Serbe, une balle de break. Donc attention, là, ça commence à vraiment devenir très, très inquiétant. Et il est extrêmement solide. Et encore une fois, je dirais que c'est parfait pour lui. Ça va très vite, le rythme et ce qu'il aime. Ça va très vite entre les points, il enchaîne, il n'a pas été énormément menacé sur son service. Il fait le match qu'il faut, il est à la hauteur de l'événement. Et finalement, c'est lui qui dicte le rythme du match.
Absolument. 40-30 pour Medvedev sur le service de Novak Djokovic. C'est une balle de break et on va voir si Djokovic prend d'assaut le filet comme il le fait peut-être un peu trop souvent depuis le début de cette finale. Là, il a plutôt tendance à rester sur sa ligne et à distribuer coup droit et revers. Medvedev qui attend, pas forcément peut-être la meilleure tactique, la faute vienne du Serbe qui joue en revers long de ligne, mais ça revient en coup droit aussi vite de la part de Medvedev. Un bel échange là entre les deux hommes en fond de court. Et c'est Novak Djokovic encore une fois qui craque. Un revers coupé qui sort largement des limites du terrain. 1-0 Lionel pour Medvedev qui fait le break d'entrée 2-7-0 et 1-0.
Et on est assez circonspect, assez perplexe effectivement sur la propension de Djokovic de réussir à écrire l'histoire, en tout cas comme il aurait souhaité le faire aujourd'hui. Le Grand Chelem calendaire, c'est vrai, et les 21 titres du Grand Chelem, il y arrivera sans doute, mais ce soir c'est plutôt mal engagé. On se souvient d'ailleurs, Antoine Bento, qu'à Roland Garros contre Tsitsipas, il avait eu un vrai coup de mou et une petite pause au vestiaire d'ailleurs qui avait fait beaucoup parler. Et c'est vrai que les pauses pipi aussi, elles ont fait beaucoup parler, hein, notamment à Flushing Meadows cette semaine. Est-ce que ça pourrait lui permettre de se remobiliser, c'est-à-dire peut-être de faire... Non mais voyez, de pouvoir se reconcentrer, de retrouver ses esprits pour repartir sur de bonnes bases, pour peut-être déstabiliser aussi psychologiquement Medvedev qui a le vent en poupe.
Je sais, bien sûr, enfin, peut-être que ça pourrait le casser un peu ce rythme, parce que Medvedev a vraiment l'air d'avoir vraiment trouvé son rythme de croisière, et Cédric a raison. Si Djokovic est mis en difficulté ce soir, c'est vraiment la faute à Medvedev, parce qu'il joue parfaitement le coup depuis le début de cette finale. Et donc, c'est vrai que on voit pas là, vu ce que montre Novak Djokovic, on voit pas comment là pour l'instant il pourrait revenir. Alors il va falloir, bien sûr, que il va y avoir la longueur du match qui va rentrer en compte. On va voir si Medvedev va pouvoir tenir ce rythme là, mais c'est sûr que une petite pause pour Novak Djokovic, on a vu qu'en finale contre Tsitsipas à Roland Garros, ça l'avait aidé. C'est d'ailleurs à ce moment là que Tsitsipas on avait pris de la graine, j'ai envie de dire, et donc lui aussi l'a répété et l'a copié sur son été américain, et c'est pour ça qu'il avait eu les critiques pour ses pauses. Mais il y a énormément quand même, je trouve qu'il y a énormément d'erreurs du côté de Novak Djokovic, et je ne pense pas pour l'instant que une simple pause au vestiaire puisse changer ça. Il va vraiment falloir
ça serait
que...
polémique hein, quand
ouais.
même hein.
Ouais, oui, voilà, en plus exactement.
Mais ça avait fait beaucoup parler, souvenez-vous, à Roland déjà hein, lors de la finale contre Tsitsipas, cette pause qui avait été régénératrice en quelque sorte. Donc là,
oui ouais. alors et qu'il y a eu la même chose avec Tsitsipas à l'US Open ouais. et à, je sais plus si c'était à Cincinnati. Donc quelque part, alors pour être tout à fait clair pour les gens qui nous écoutent, c'est le règlement autorise la possibilité d'aller faire une pause, et puis finalement il n'y a pas du tout de chronomètre qui est mis en route à partir du moment où le joueur sort du court. Donc bon, alors il va pas prendre une heure, mais enfin on a vu que ça pouvait aller jusqu'à 10 minutes, 12 minutes, ce qui est extrêmement long, permet de redescendre, de reprendre ses esprits. Mais là, je dirais que même si le règlement l'autorise, ça deviendrait extrêmement polémique par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui s'en sont plaints et qui disent qu'il y a un règlement aujourd'hui qui est mal adapté en fait.
Ouais, ça pourrait le faire sortir du match, comme ça pourrait perturber Medvedev aussi. En tout cas, ce serait en effet risqué. Un jeu zéro pour Medvedev dans le troisième set. Les deux manches sont pour Medvedev aussi, pour le Russe et Jean-François Pérez. Là maintenant, on est toujours à 30 à.
Oui, 1h40 de jeu et une occasion pour le Russe de se détacher désormais à 2-0 puisque Novak Djokovic multiplie les fautes au filet. Hein. On va dire qu'à chaque fois, il prend le risque. C'est un Djokovic qu'on connaît peu, nous, en France, hein, parce qu'on est habitué évidemment à Roland-Garros à le voir jouer différemment. Et même sur surface rapide, ce n'est pas forcément quelqu'un qui prend d'assaut comme ça le filet de façon aussi systématique. Ce soir, c'est le cas. Il y vient. Parfois même, il est attiré par Medvedev qui joue des espèces de petits amortis qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours très inspirés. Mais ça fait monter Djokovic. Ça le pousse à l'erreur et ça marche le plus souvent, statistiquement. Donc ça veut dire que Medvedev est à un point donc, de se détacher 2-0, mais là Djokovic a su trouver la petite faille qu'il fallait. 40 à, et on voit hein, Cédric sur dans la tribune hein, notamment l'entraîneur Marin Vajda, l'entraîneur de Djokovic, qui a l'air particulièrement sombre.
Oui, l'entraîneur, le préparateur, je crois que c'est le préparateur, je sais plus si c'est le kiné, le préparateur physique, la femme, enfin ils font des têtes avec des yeux un petit peu ahuris en se disant qu'est-ce qui se passe,
on ne le reconnaît pas.
Ouais, on reconnaît pas notre notre joueur habituel qui rate.
Pardon Cédric, mais c'est un point extrêmement représentatif de cette finale. C'est-à-dire que Medvedev n'a même pas besoin d'aller chercher la force. Il a attiré Djokovic au filet avec un petit amorti de revers. Djokovic est venu. C'était ce qu'on appelle un penalty quand même dans le tennis. C'est-à-dire que Djokovic n'a plus qu'à remettre la balle, à la rabattre et puis c'est terminé, le point pour lui. Ben là, il l'a mis dans le filet.
Ouais.
Et c'est au moins la 10e fois depuis le début du match.
Oui, et puis alors, je dirais attention maintenant. On est vraiment à un moment très important, évidemment, pour les deux joueurs, mais surtout pour celui qui mène le russe, de pas avoir une petite déconcentration ou décompression qui permettrait qui laisserait l'espace nécessaire à Djokovic de revenir dans le... Voilà, quel échange encore.
Ah ouais, c'est un échange absolument extraordinaire. Il est conclu par Medvedev qui lève les bras au ciel avec sa raquette. Medvedev qui se détache dans cette troisième manche. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'on est en train de vivre ce soir sur Europe 1. 6-4, 6-4. 2-0 pour le russe, pour le numéro 2 mondial, qui n'est plus qu'à 4 jeux d'empêcher le rêve de Djokovic ce soir. Il va falloir vraiment que le Serbe se réveille au plus vite, parce que là vraiment ça brûle.
Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Enfin, point sur l'actualité, Sophie Tussaud.
Édouard Philippe met fin au suspense. L'ancien Premier ministre ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Il assure que son soutien sera complet à Emmanuel Macron. Il invoque plusieurs raisons à cela, dont la loyauté et la nécessité d'accentuer les réformes lancées depuis 2017. À gauche, Anne Hidalgo est officiellement candidate, elle, à la présidentielle. La maire de Paris s'est lancée dans la course ce matin lors d'un discours prononcé à Rouen. Elle affirme se présenter pour bâtir une France plus juste. Marine Le Pen, quant à elle, a donné le la de sa campagne. La présidentielle sera un choix de civilisation, a-t-elle déclaré dans un discours prononcé à Fréjus dans le Var, la présidente du Rassemblement national, qui a officiellement passé la main à Jordan Bardella, le numéro 2 du parti, et ce afin de se consacrer pleinement à 2022. La campagne de vaccination pour la troisième dose débute demain. Coup d'envoi donné pour les plus de 65 ans dans les EHPAD. Le rappel pourra être effectué à condition et que la dernière injection date d'au moins 6 mois. Et mercredi, ce sont tous les personnels de santé qui devront être vaccinés. 2,7 millions de personnes sont concernées. Et tous les salariés des hôpitaux et des maisons de retraite qui n'auront pas reçu une première dose pourront être suspendus sans rémunération. Un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé en fin de journée en Isère, près de Villard-de-Lans. 5 personnes étaient à bord. L'une d'entre elles est décédée. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra sur place demain. Premier déroulé de tissu sur l'Arc de Triomphe à Paris pour l'œuvre posthume de Christo. 95 cordistes se sont lancés ce matin depuis le sommet du monument parisien. L'édifice commence à être empaqueté, comme le rêvait l'artiste décédé l'année dernière. L'inauguration est prévue le 18 septembre. Les sports, la finale de l'US Open, Novak Djokovic très en difficulté face au russe Daniil Medvedev. Le Serbe est mené 2-7 à rien, 6-4, 6-4 et également mené dans le troisième set de jeu à 0. En football, c'était la fin de la 5e journée de Ligue 1 et en dernier match, Lyon a battu Strasbourg 3-1. Et puis en Formule 1, ce spectaculaire accrochage qui a eu lieu cet après-midi lors du Grand Prix d'Italie, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont percutés sur le circuit de Monza. Les deux voitures se sont retrouvées l'une sur l'autre et les pilotes ont dû abandonner la course. C'est l'Australien Daniel Ricciardo qui a remporté le Grand Prix sur McLaren. Et à la suite de cet accident, Max Verstappen, le leader du championnat, sera pénalisé de 3 places sur la grille au prochain départ, prochain Grand Prix. Donc ce sera dans 2 semaines en Russie.
Europe 1.
Bientôt minuit 4 sur Europe 1, c'est la suite de la nuit Djokovic.
Europe 1, la nuit Djokovic, Lionel Rosso.
La finale de l'US Open à Flushing Meadows et Djokovic dans son projet historique de devenir le plus grand joueur de tous les temps, au nombre de, notamment de titres du Grand Chelem. 21 grands titres, enfin il en est à 20 en tout cas, et plutôt mal engagé face à Medvedev puisque le Serbe a perdu les deux premiers sets 6-4, 6-4 et qu'il est mené dans la troisième manche sur le score de 2-0. Jean-François Pérez, Cédric Pioline, Antoine Bento, il est vraiment en danger.
Ah oui, il est au pied du mur même on peut dire, hein, parce que il était mené 30-0 sur son service là, pour essayer de revenir à 2-1 Djokovic et continuer à espérer dans cette troisième manche. Il est remonté à 30-1, on s'est dit qu'il allait dérouler dans la foulée pour empocher sa mise en jeu, pas du tout. Et il vient d'encaisser un point qui fait mal là, parce qu'il y a eu une attaque long de ligne là, de la part de Medvedev qui a scotché littéralement le Serbe là, sur sa ligne de fond. 40-1, une première balle qui ne passe pas pour Novak Djokovic et évidemment il se met en difficulté, à peine 52% hein, de taux de première balle réussi dans cette finale. C'est notoirement insuffisant sur ce type de surface. L'échange qui s'installe suite à cette deuxième balle donc de Novak Djokovic qui essaie d'accélérer en coup droit. Medvedev qui résiste, qui ne fait que résister, et ça suffit parce que Djokovic est très souvent, trop souvent sans doute, dans cette finale le premier à commettre la faute. Avantage Daniil Medvedev, cela fait une balle de 3 jeux à 0, Cédric.
Ah oui, un match de tennis n'étant jamais fini par définition.
Surtout avec Djokovic.
Mais bon, deux breaks de retard et vu la physionomie depuis le début du match, on se dirait que ça serait quasiment fini. En fait, pour l'instant, on a l'impression que... Oh là là,
il la sort. Ouais. Est incroyable ce qui est en train de se passer sur le court Arthur Ashe, parce que là, Medvedev avait retourné le service, mais enfin, c'était plus une façon de remettre en jeu la balle qu'autre chose. Il n'y avait rien de décisif dans son geste. Djokovic, comme très souvent, est monté au filet et a raté une volée qui paraissait totalement immanquable, j'allais dire exactement. 3-0 Lionel pour Medvedev qui se rapproche à grands pas et très rapidement. Vraiment de sa première victoire en Grand Chelem.
Effectivement, on a du mal à comprendre comment Novak Djokovic a pu craquer à ce point, parce que c'est quand même quelqu'un qui est capable de résister à la pression. Véritablement, Antoine Bento, il s'est déjà retrouvé dans des situations parfois très très compliquées, plus euphoriques aussi, mais l'enjeu peut-être, est-ce que c'est possible à ce niveau-là pour un garçon comme lui de succomber à l'enjeu, de craquer face à l'enjeu, d'entrer dans l'histoire, puisque c'est de cela dont il s'agit?
Non, je ne pense pas que ce soit l'enjeu ou que ce soit que ça, parce que l'histoire, il l'a déjà écrite et il continuera de l'écrire, parce que même s'il ne le fait pas ce soir, on pense vraiment qu'il en regagnera des titres du Grand Chelem. Donc je ne pense pas que ce soit l'enjeu. Il y a vraiment, on sent vraiment que physiquement, il y a énormément de fatigue. On le sent aussi épuisé, un peu mentalement ou normalement. Alors, il a essayé au début de cette deuxième manche où il a essayé de s'énerver. Normalement, il arrive à puiser dans cet énervement et dans cette rage une énergie pour revenir dans un match. Et là, vraiment, il n'y arrive pas. On sent que tout ce qu'il tente, il le rate. Et puis, quand il est en position et qu'il fait les bons choix, c'est la réalisation qui pêche. Et comme on l'a vu sur cette dernière volée où il était monté au filet pour venir sauver cette balle de double break, il a une volée quasi pénalty où le court de l'autre côté est grand ouvert et il rate cette volée dans le couloir. On commence à sentir quand même un petit peu il est un petit peu résigné, le Serbe.
Jimmy Algerino, notre expert football, défenseur du Paris Saint-Germain notamment, est resté avec nous, grand passionné de tennis.
Spécialiste des couloirs, Lionel.
Ah ben le couloir, ça, il connaît la ligne blanche, je peux vous dire qu'en général, il connaît bien Jimmy Algerino. Non, je parle de la ligne blanche.
La ligne blanche, évidemment.
Tout de suite les amalgames.
Ça va, c'est minuit 7, Lionel, c'est minuit 7.
C'est parti.
On peut commencer à se perdre.
Attendez, la ligne de touche, c'est une ligne blanche, je suis désolé. Voilà, ne franchissez pas cette ligne que je ne vous ai pas proposé, mon cher Jimmy Algerino. Non, votre point de vue, votre regard en tant que passionné de tennis également sur Djokovic engoncé dans une situation très mal embarquée.
Moi, j'avais vu le match à Roland-Garros contre Nadal. Et malgré la difficulté qu'il a eue en début de match, je le trouvais quand même assez équilibré, assez facile et quand même dans ses déplacements.
Ouais.
Là, je le sens vraiment un peu cramé, fatigué. Donc c'est pour ça que c'est le nombre de fautes qu'il fait, le nombre de points qu'il donne. me paraît assez rédhibitoire pour revenir dans le match et remporter ce match.
3-0 dans le troisième set, Jean-François Pérez, 3-0 à l'avantage du Russe, bien sûr.
Et oui, il n'est plus qu'à 3 jeux, ça fait 12 points, ça fait une petite quinzaine de points à remporter, c'est rien du tout, hein. Une petite quinzaine de points à remporter pour aller chercher. C'est la vérité. 1h58 de jeu.
Oui.
C'est vrai, 14 aces à 5 pour Medvedev qui est devant toutes les statistiques possibles de cette finale. C'est lui, c'est le Russe ce soir qui est le maître du cours. Et même quand Djokovic arrive à marquer un point gagnant, on a la sensation, Cédric, que ça ne fait pas mal aux Russes. Il se replace, il repart et en général, c'est lui qui remporte le point suivant.
Oui, parce que Novak n'a pas réussi depuis le début du match à trouver un fil conducteur. Il joue comme on l'a dit, courant alternatif. Il n'y a pas vraiment de construction. Le seul secteur qui fonctionne à peu près et le service, et puis lorsqu'il monte au filet. Mais là, bon, on voit clairement sur cet échange que
il est lent,
il n'a pas de temps de réaction, enfin le temps de réaction habituel, et donc c'est une vraie problématique. Et là, on voit, comme l'a dit Antoine, une forme de résignation dans son attitude, dans son regard. Normalement, il a ce regard
un petit peu fou
du prédateur. Et bon, là, de 7-0, 4-0, ça sent le pâté, comme on dit.
Bon, Lionel, voilà, 4-0, ça veut dire que Medvedev n'a plus que 2 jeux à inscrire pour remporter l'US Open. 8 points désormais.
Non, mais c'est quand même assez incroyable que Djokovic passe à côté de cette finale, de ce match, tout simplement. On l'explique uniquement avec la fatigue, le fait qu'il ait passé beaucoup de temps sur les courts, qu'il ait concédé d'ailleurs à chaque fois un set ou 2 sets dans cet US Open. On peut répondre avec Antoine, peut-être.
Est-ce que, en fait, on est habitué à ce que Novak Djokovic trouve des solutions tout le temps et soit une espèce de surhomme physiquement. On avait vu déjà pendant les Jeux Olympiques face à Zverev en demi-finale, alors que le Serbe était très très bien lancé. Et puis en demi-finale, on avait senti qu'il avait un peu calé. Alors Sacha Zverev avait très très bien joué, mais on avait vu un Novak Djokovic qui s'était éteint. Alors on sait que voilà, il n'a pas joué de simple avant cet US Open. Il avait sûrement besoin de récupérer parce que la saison est déjà longue pour le Serbe. On rappelle qu'il a remporté l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, entre autres, et d'autres tournois aussi. Et donc là, c'est vrai que est-ce que on sait que ce dernier Grand Chelem, l'US Open, il y a énormément de fatigue. On accumule la fatigue de toute une saison. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de fatigue mentale pour Novak Djokovic? En tout cas, clairement, pour l'instant, il n'arrive pas à remettre la machine en route.
Oui, ça va vite, ça va très vite. Alors, il a évité, si on peut dire, la bulle, puisqu'il vient d'inscrire un jeu, Novak Djokovic, sur son service. Mais j'ai presque l'impression que c'était davantage parce que Medvedev lâche la bride sur le service de Djokovic, tellement sûr de sa force sur sa propre mise en jeu. Il n'a plus que 2 jeux, donc, à remporter Medvedev pour aller chercher ce titre. Et on va peut-être dire 2 mots pendant que les 2 joueurs sont en train de faire une pause de ce Russe. En effet, Cédric, on en parlait peut-être trop peu tout à l'heure, qui joue l'un des matchs de sa vie ce soir et qui est quelque part un petit peu français aussi, parce que
ah, j'adore.
Ben, c'est vrai, ils s'entraînent depuis des années à Cannes.
Oui, avec un coach totalement français.
Gilles Servara
dans l'académie de Jean-René Lisnard à Cannes. Donc oui,
c'était le cas il y a encore quelques mois, je crois.
Bref. Donc en tout cas, il a fait un long passage là-bas. Et
6 ans, ouais.
Et puis, francophone.
Très francophone.
C'est vrai qu'il a fait ce choix quand il était beaucoup plus jeune. Il cherchait un endroit où il pouvait s'entraîner toute l'année, puisque en Russie, l'hiver est un petit peu plus rude, on va dire, ça comme ça. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a un coach français qui est aux commandes depuis de nombreuses années, qui l'a accompagné des places,
des juniors,
tout le parcours jusqu'à être numéro 2 mondial aujourd'hui.
Ouais, et il est de retour là sur le court, Daniil Medvedev. On peut dire aussi, si on veut terminer cette petite aparté cocorico, on va dire que c'est une finale 100% française côté équipementier, puisque vous savez qu'Europe 1 est ravi d'être radio officielle de Roland Garros, des internationaux de France. Mais là, on a une finale ce soir 100% Lacoste. Pas René Lacoste, mais Lacoste la marque, puisque les deux joueurs arborent le polo au crocodile pour cette finale. Mais pour l'instant, le crocodile, c'est plus Medvedev que Djokovic ce soir. 4-1, et c'est le Russe qui est aux commandes, donc qui est au service. Il est mené 15-0. Il a encore une fois attiré Novak Djokovic au filet, mais cette fois le piège était quand même un petit peu gros. 15-0 donc pour Novak Djokovic, qui va devoir lancer ses derniers feux dans cette bagarre, parce que 1h56, ça va quand même très très vite. Franchement, quand on avait préparé cette finale, tout le monde me demandait à quelle heure ça va se terminer. Vous savez que c'est la rituelle question quand on est journaliste de tennis et qu'on vous demande à quelle heure se termine le match. On n'en sait évidemment rien, puisque c'est pas un match de foot, il y a un match de rugby. Mais en tout cas, je leur avais dit, oh, ça va durer de toute façon à minima 2h30, 3h. Là, on est à 1h57. Ouais. Et si ça continue comme ça, on va à peine franchir les 2 heures de jeu. Sauf si ouais. Daniil Medvedev commence à se dire que
à se tendre,
on connaît et vous connaissez bien évidemment Cédric, ça c'est compliqué d'arriver à terminer un match aussi stratégique, aussi fabuleux que celui-ci, et on voit que Medvedev a du mal à faire passer sa balle derrière le filet au service.
Oui, alors bon, il a pas eu, comme on l'a dit, de baisse de régime depuis le début de ce match. Mais je dirais que la réussite...
Oh oui, il a un let là pour revenir à 35.
Et
34, pardon.
L'avantage, c'est qu'il est dans une position ultra favorable et surtout avec 2 breaks d'avance. Il n'en aurait qu'un, on se dirait, on tremble un peu, on peut revenir. Mais 2, c'est quand même, avec un serveur tel qu'il est, un avantage énorme. Donc on va voir, mais c'est vrai que là on le sent sur ce jeu de service que c'est un petit peu moins fluide.
Ouais, c'est peut-être la perspective de la fin de ce match qui arrive. 30-1, on va suivre la fin de ce jeu, de ce 6e jeu dans ce 3e set. On rappelle 6-4, 4-1, c'est le score en faveur de Daniil Medvedev. Non, vous ne rêvez pas si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. 6-4, 6-4, 4-1 pour le Russe face à Novak Djokovic, totalement dépassé par les événements ce soir. Un échange qui s'allonge là entre les deux hommes. Il n'a pas eu énormément de rallyes, et à chaque fois ou presque, c'est Novak Djokovic qui commet la faute. Et c'est vrai qu'on sent, qu'on voit, qu'on lit sur le visage du Serbe une espèce de résignation qui n'est absolument pas sa marque de fabrique.
Oui, et puis il y a eu pas mal de rallyes dans cet échange, et souvent il finit par une faute où on sent un appui qui cède, il est un petit peu moins bien, encore une fois sur ses jambes, comme on a pu le souligner. Donc c'est évidemment, avec juste deux heures de jeu, on se dit comment pourrait-il faire pour remonter.
C'est fait 5 jeux à 1, Lionel, 5 jeux à 1 pour Medvedev, plus que 4 points en effet. Je vois que vous aimez comme moi tenir des comptes bien précis.
Non, mais
plus
attendez,
que 4 points,
attendez,
pour remporter l'US
Open. Il y a une remontada possible. Moi, je pense que la prévision de Jean-François Pérez sur l'horaire 2h, 2h30 du matin tient encore. Et de toute manière, je tiens quand même à le préciser auprès d'Antoine Bento et de Cédric Pioline, même si le match s'arrête dans quelques minutes, il faudra tenir jusqu'à 2h30 du matin.
Aucun problème.
Pourquoi pas
Il y a des litres de
on
café.
On peut lancer le concept. On a encore quelques capsules, Lionel, s'il vous plaît.
Non, mais j'en suis persuadé. Non, ce qui est quand même assez incroyable, on se faisait cette réflexion avec Jimmy Algerino tout à l'heure, c'est qu'à aucun moment dans cette finale, Djokovic n'a pu prendre du plaisir, essayer d'avoir à un moment donné l'avantage sur une période. Ouais. À aucun moment, c'est extrêmement frustrant. Et donc, mentalement, j'imagine qu'il doit être très, très épuisé, voire dégoûté par la physionomie de cette rencontre, Antoine.
Oui, c'est vrai qu'il avait dit avant le match qu'il allait tout donner, que c'était le match d'une carrière, le match d'une vie, peut-être le match le plus important de sa carrière. Et quand on voit le peu de choses qu'il est capable de donner ce soir, il doit être très frustré, bien sûr, Novak Djokovic, parce que s'il y a bien quelqu'un, un joueur qui est un combattant énorme sur le circuit, c'est lui, il l'a prouvé cette saison. On a dit qu'il était revenu, cette finale à Roland-Garros de 7-0 menée par Tsitsipas. Il était aussi mené de 7-0 pendant cette campagne à Roland-Garros face à l'Italien Musetti. Et donc, on sait qu'il lâche rien. On sait que la moindre fenêtre pour revenir dans un match, il va essayer de s'y engouffrer. Et c'est vrai que là, il manque cette intensité mentale qu'il a d'habitude. On le sent dans le regard, on le sent dans ce qu'on appelle le body language, le langage corporel, et on sent que c'est pas le Novak Djokovic qu'on connaît.
Est-ce que c'est lié à la fatigue? Est-ce que c'est lié à la tension due à cette immense à l'histoire qui peut être écrite ce soir? En tout cas, là, il est à deux points de la défaite.
Absolument. 30 à sur ce jeu de service, l'épouse de Novak Djokovic qui, a déjà la défaite imprimée sur le visage. Il est au service, le Serbe. Il réussit là un ace. Ça sera 40-30. Un petit répit, on va dire, pour ce cinquième ace, simplement depuis le début de la partie pour Novak Djokovic. Et c'est sans doute Medvedev qui, dans les 2-3 minutes qui viennent, devrait servir pour le gain de cette finale. On va suivre ce point avec un Djokovic qui parvient, grâce à ce revers qui part directement dans le filet de Medvedev, qui parvient à s'accorder donc 1 minute 30 l'aile de répit. Et c'est Medvedev, dans un instant, qui va servir pour le gain de cette finale.
Alors justement, c'est l'occasion à Flushing Meadows, à New York, de retrouver Antoine Bancharel pour avoir votre sentiment. Antoine, effectivement, à aucun moment, c'est ce qu'on disait, Novak Djokovic n'a réussi à prendre le meilleur, vraiment aucune période sur son adversaire ce soir, et il semble que la défaite soit inéluctable. Est-ce que vous partagez cette idée?
Oui, effectivement, c'est un rouleau compresseur qui s'est abattu à la fois sur Novak Djokovic et un petit peu sur l'ambiance, puisque là, elle est quand même un petit peu à plat, c'est un soufflé qui retombe. Daniil Medvedev a joué un jeu parfaitement tactique et en même temps extrêmement frustrant effectivement pour le Serbe, et du coup un petit peu frustrant aussi pour le public, alors qu'il n'y a pas vraiment une histoire d'amour avec Djokovic, mais qui quand même voulait vivre ici un petit peu un moment historique. Et là se rend compte que cette soirée à New York n'est pas vraiment très excitante. Effectivement aussi, Novak Djokovic montre des signes de lassitude, de frustration. Donc on va voir si peut-être après en conférence de presse il expliquera son attitude.
Antoine Bancharel en direct de New York. À Belgrade maintenant, Axel May. Axel, je sais que vous avez un petit peu bougé, vous n'êtes plus au restaurant de Novak Djokovic, mais un peu plus dans le centre de Belgrade désormais, où l'ambiance doit être extrêmement terne, j'imagine, vu la physionomie de la rencontre.
Ah bah oui, non seulement il commence à être tard, et en plus effectivement les publics ont tendance à partir, hein, parce que fini, il faudra vraiment un...
Ouais, la liaison n'est pas très bonne pour tout vous dire, mon cher Axel, donc on va vous retrouver un petit peu plus tard. Puis de toute manière, pour tout vous dire, Dani Medvedev va servir maintenant pour le gain du match, donc on va retrouver Jean-François Pérez, Cédric Pioline et Antoine Bento pour vivre pleinement peut-être le dernier jeu, le jeu gagnant pour le Grand Chelem. Jean-François Pérez.
C'est le premier titre, bien sûr, en Grand Chelem, hein, de Daniil Medvedev qui se joue après deux finales perdues. Une ici même à l'US Open face à Rafael Nadal il y a 2 ans, et une en début d'année en Australie face à Djokovic qui avait fait à peu près la même chose que ce que lui inflige à Djokovic aujourd'hui, c'est-à-dire une victoire qui se dessine en 3-7. Il va falloir néanmoins terminer ce match. Djokovic qui a changé de polo. Voilà, il aura peut-être tout essayé. Il ne nous a pas fait encore le coup de la pause pipi, mais en tout cas, il a changé de polo. On est passé du bleu au blanc pour terminer cette finale. Enfin, terminer si Medvedev maintient son niveau de jeu. Un nouvel ace pour le Russe. Ce sera le 17e dans ce match pour revenir à 15 partout. Plus que 3 points donc pour Medvedev. Medvedev qui va devoir garder la même mentalité, la même attitude sur le court. Il n'a pas failli, n'a pas défailli depuis le début de ce match. Il a maintenu un niveau de jeu, un niveau de concentration absolument bluffant, hein, pour un garçon qui est parfois soumis un petit peu à des phases de courant alternatifs. Il a perdu ce point, et Djokovic qui s'offre petit à petit un petit peu de répit, un petit peu de sursis. 15-30, hein, Cédric, pour un Djokovic qui ne veut pas s'avouer aussi facilement vaincu.
Oui, avec un rythme qui est toujours... excusez-moi. Un rythme qui est toujours aussi rapide avec ce service gagnant pour venir à 30 partout. Et voilà, c'est... un petit peu toujours la même physionomie que depuis le début de cette rencontre, même si Novak essaye, mais...
On sent qu'il est très rapidement débordé, le Serbe. Là, il a tenté de se recentrer, d'envoyer un long coup droit, mais c'est dehors. Ça veut dire que après 2h05 de jeu sur le central Arthur Ashe à Flushing Meadows, Daniil Medvedev, le Russe, le numéro 2 mondial, a désormais une balle de match face à Novak Djokovic. C'est allé vite, c'est allé très vite cette finale. 6-4, 6-4, 5-2. Et Daniil Medvedev sur son service qui a peut-être la victoire au bout de la raquette. Lui, le russe de 25 ans, le numéro 2 mondial. Daniil Medvedev qui s'apprête à servir. Il attend que le calme se fasse dans les tribunes avec 23 000 spectateurs, hein, on le disait tout à l'heure, qui ont assuré une magnifique ambiance tout au long de cette finale. Et le calme qui a un petit peu de mal à revenir. On attend que le silence se fasse sur le court Arthur Ashe. Et Medvedev qui fait signe à l'arbitre en disant « Je ne peux pas servir, je ne peux pas jouer dans ces conditions, je ne peux pas jouer ma balle de match comme je le devrais, donc je vais attendre vraiment que les gens soient un petit peu plus disciplinés. » Voilà, c'est parti. Première balle pour Medvedev, elle est dehors de justesse. Deuxième balle à venir pour le russe. On rappelle 6-4, 6-4, 5-2, 40-30 pour Medvedev face à Djokovic. Ouh, et la double faute. Eh oui, le petit bras qui tremble, qui va bien.
Ouais, il a tenté l'ace quand même. Ouais. Il a tenté l'ace.
Et il va falloir maintenant sortir de nouveau deux points. Et la compagne, même l'épouse de Daniil Medvedev, qui s'en éponge le t-shirt. Il commence à faire chaud. Petite trentaine de degrés sur le central de Flushing Meadow. Et il tente encore une fois l'ace. Daniil Medvedev, ça part en dehors du carré de service. Deuxième balle. À venir encore une double faute. Est-ce qu'on appelle ça la peur de gagner, Cédric ?
Ah oui, il y a un petit, une nervosité pour le moins. Et attention, ouais, attention, il n'a pas été trop généreux quand même. Jusqu'à maintenant, il a vraiment conduit son match d'une manière parfaite.
Oui, on va voir, on va suivre cet échange. Ouais. Voilà, c'est fini. Il grille un joker. Daniil Medvedev, puisque c'est Novak Djokovic qui revient à 5 jeux à 3 dans cette troisième manche.
De la folie. Ça va mettre
ça
de la folie.
Ça peut peut-être tourner. Lionel.
Ça peut peut-être tourner, effectivement, et on y croit peut-être à Belgrade. Enfin, un peu, Axel May, n'est-ce pas ? Vous êtes en direct.
Oui, oui, alors ce que je disais, même si la liaison n'était pas très bonne tout à l'heure, c'est que l'heure avançant, les gens ont commencé à quitter les bars parce qu'ils ont compris que ça devenait vraiment très compliqué, même s'il y a un petit répit là, qu'on vient de vivre en direct. Mais on sent, notamment dans le restaurant que j'ai quitté tout à l'heure de Novak Djokovic, une grande déception, une grande lassitude presque de la part des supporters qui étaient venus en se disant « Bah non, c'est sûr, il va gagner, il va entrer dans l'histoire, il l'avait dit, hein, Djokovic, je vais faire mon... » peut-être jouer ce match comme si c'était le dernier de ma vie. On espère pour lui que c'est pas le dernier parce que ça semble quand même mal embarqué, et donc déception qui est perceptible chez les supporters, même si on l'a entendu, c'est pas tout à fait terminé, mais voilà, l'effervescence qu'il y avait est en train de retomber comme un soufflet ici à Belgrade.
Mais il y croit encore peut-être, Novak Djokovic. Enfin, il reprend peut-être un tout petit peu espoir. Là, il a une période depuis quelques secondes, Jean-François Pérez, qui est plus profitable, plus positive que ça n'a été le cas jusqu'à présent.
De toute façon, si le match doit tourner, c'est maintenant, hein, parce qu'après, ce sera bien trop tard. Donc, c'est maintenant que la remontada de Djoko doit être enclenchée face à un Medvedev qui a eu le bras qui a tremblé tout à l'heure, hein, pour servir là, pour cette balle de match, cette double faute, et même ces deux doubles fautes d'affilée commises par le numéro 2 mondial, Medvedev, qui, sur le service de Novak Djokovic, on est à 15 partout, 15 partout, donc encore 3 points à jouer dans ce jeu, peut-être qui sait, pour Medvedev, pour aller au bout de son histoire, ou Djokovic pour un nouveau répit, sachant que de toute façon derrière, Medvedev servirait une nouvelle fois pour le match. La première balle qui était croisée mais qui est sortie hors du carré de service de la part de Novak Djokovic. La deuxième balle est à venir, 15 à, on le rappelle, Medvedev, 6-4, 6-4, 5 jeux à 3 pour le russe, pour le numéro 2 mondial. Deuxième balle pour Djokovic, il m'a à peu près la même. Le russe qui renvoie en coup droit. Djokovic qui n'hésite pas à accélérer et qui pousse Daniil Medvedev à la faute. 30-15 pour Novak Djokovic qui s'offre un petit sursis, on va dire, hein, Cédric.
Un petit sursis, ouais, avec un Medvedev qui a été, en tout cas sur son jeu de service, rattrapé par la nervosité.
C'était la première fois, hein, depuis le début de cette finale.
La première fois qu'il enchaîne en fait une série de trois fautes directes, hein, deux doubles fautes et un coup droit milieu du filet. Pour se faire aussi débreaker, enfin perdre son service pour la première fois de cette rencontre. Donc voilà, ça serait vraiment intéressant de voir avec ce coup droit qui est peu large, ouais, donc deux balles de 5 jeux à 4, et de voir justement comment va réagir le russe avec cette possible conclusion avec 5-4 services. Mais là, à nouveau, on pourrait se dire attention à la nervosité.
Allez, deux balles désormais de 5 jeux à 4, de 4 jeux à 5 pour Djokovic dans cette troisième manche. Il monte au filet. Voilà, c'est fait. 5 jeux à 4, Lionel. Medvedev qui va devoir servir pour le match. Mais regardez le sourire carnassier qui revient sur le visage de Djokovic.
Oui, c'est ça, c'est assez incroyable. Je pense que bon, ça le fait.
C'est assez... la première fois du match qu'il sourit.
Ça le fait sourire. Il y a peut-être un petit peu d'ironie aussi. Voilà, il a le point rageur également, puisqu'il est encouragé par le public. Tant mieux, tant mieux si c'est relancé dans cette partie, mais enfin il y a quand même du chemin à faire. Jimmy Algerino, vous êtes toujours avec nous, vous y croyez à la remontada de Djokovic? Il en est capable, hein?
Ah bah je le souhaite déjà pour le spectacle et puis pour le joueur que c'est, donc oui. ça serait magnifique.
Et pour la prévision de horaire aussi sur François Pérez,
2h30 jusqu'au bout, donc ça serait bien.
Pour que ça parte en 5-7. Non, mais franchement, vous avez l'impression, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure lorsqu'on écoutait Jean-François, Cédric et Antoine, que donc, Djokovic arrive maintenant à faire jouer, à faire bouger un petit peu plus son adversaire.
Ben, les spécialistes vont en parler, mais j'ai vraiment l'impression que là, enfin, il arrive à bouger Medvedev, et donc ça lui fait faire plus d'efforts. Et donc, un peu plus d'erreurs que l'on a vu là sur ces derniers points. Donc, c'est intéressant pour Djoko. Et puis, ce petit supplément d'âme qu'il avait besoin d'aller chercher grâce au public, grâce à ses points un peu durs, mais là, on le voit avec ses derniers gestes. Il arrive à les trouver, il arrive à se les approprier pour entamer peut-être un autre match ce soir.
Et peut-être, Antoine Bento, n'y a-t-il plus de tactique vu le score pour Djokovic? Donc, il est totalement relâché. Et ça lui réussit. Alors peut-être avec la force du désespoir ou du léger espoir. Mais voilà, grâce à ce relâchement, il arrive à revenir un peu dans le match.
Ben là, c'est sûr que... Oh là, je suis pris par l'image parce que j'ai l'impression que Djokovic était pris un peu de larmes sur le visage. C'était assez
poignant. Il y a une émotion.
C'est sûr que là, sur ce jeu, c'est pas Novak qui va l'offrir à Daniil. Novak va essayer de faire ce qu'on appelle de serrer le jeu, d'être très solide. Et puis il sait que il y a des larmes sur le visage de Novak Djokovic. Peut-être la pression qui est en train de relâcher, mais en tout cas, il va essayer de tout donner.
Ah oui, là, c'est un jeu étonnant, presque incroyable, hein, parce que de voir Novak Djokovic en larmes, alors qu'il est en train de jouer un point sur le service de Medvedev, pour l'instant, c'est le premier point de ce jeu. On rappelle que Medvedev mène 6-4, 6-4, 5-4, et que si le Russe gagne son service, eh bien, ça ne sera terminé de cette finale. Et désespoir pour l'instant, donc, de remporter un 21e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic. Djokovic qui s'accroche avec beaucoup de courage, mais qui perd ce point 15-0. À la fin, Cédric, d'un rallye d'une vingtaine de points.
Oui, mais c'est beau en même temps, parce que ça le rend plus humain de voir que justement c'est tout ce qui doit se passer à l'intérieur de son esprit et la liaison avec son corps où il était complètement crispé. Et finalement, l'image là, quand il a souri au changement de comté, et ça m'a fait penser à la finale Gaudio Correa à Roland Garros où Gaudio était en déroute complète. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il avait eu balle de match, Correa, si je me trompe pas. Et le public avait fait une ola, ça l'avait détendu, il avait souri également, et il était revenu et avait gagné cette rencontre. Donc je sais pas ce qui va se passer là. Mais voilà.
Medvedev, il appuie là en coup droit, maintient Djokovic. Il joue parfaitement le coup pour l'instant. Pas de faute de la part du Russe. Un long échange, une nouvelle fois, dans ce jeu. 5 jeux à 4. Et Djokovic qui craque une deuxième fois. On voit cette image émouvante d'un numéro 1 mondial qui redevient, j'allais dire, un homme, un simple joueur avec les yeux rougis. Il arrive à remettre la balle. Il arrive à faire, j'allais dire, comme d'habitude, peut-être un petit peu en pilotage automatique aussi, parce qu'il doit ressentir des émotions tellement contradictoire, Novak Djokovic, ce soir. 5 jeux à 4, 30-0 pour Daniil Medvedev, qui n'est plus qu'à 2 points du match, sachant que Daniil Medvedev, tout à l'heure, avait eu une balle de match, mais il l'avait gâchée suite à une double faute. 30-0, donc, on suit le service du Russe. La première balle qui a de plus en plus de mal à passer. Je pense qu'il serait quand même bien inspiré de terminer en 3-7, Medvedev, parce que ça commence gentiment à se dérégler, sa machine au service. L'échange, une nouvelle fois, là, qui risque de se prolonger. Et cette fois, c'est le Russe qui commet la faute. C'est pas fini.
Oh, qu'il est important ce point. Ouais. Oh, qu'il est important. 45 ou 30 à.
Ouais, 30-15 donc hein, pour l'instant. C'est le score pour Medvedev qui est toujours à 2 points du gain de cette finale. Mais Novak Djokovic, jusqu'au bout, tente de maintenir le suspense, de prolonger l'échange avec cette émotion toujours aussi palpable sur son visage. 30-15 et le public évidemment qui se manifeste beaucoup, qui a du mal à garder son calme. Et Medvedev qui en profite pour prendre un peu de temps avant de servir. On a cru à un ace, non, c'était encore dehors. Ça se grippe un petit peu. La première balle de Daniil Medvedev. On regardera la stat tout à l'heure si jamais Novak Djokovic parvient à revenir. Ah oui, ce revers long de ligne, il va falloir terminer au filet. Maintenant, Medvedev, voilà, c'est fait.
Deux balles de match.
40-15, balle de match pour Daniil Medvedev. Il a peut-être fait sauter le verrou psychologique là, Cédric.
Là, je crois que c'est bon. Là, je crois que parce qu'on voit d'ailleurs sur ce jeu de service, il a pas passé de première quasiment. Et c'est du fond du court qu'il a été chercher ses 3 points pour s'offrir. Deux balles de match.
Attention, 2 balles de match à venir pour Daniil Medvedev sur son service face à Novak Djokovic. La première balle, elle n'est pas bonne. Décidément,
forcé,
il aura peut-être terminé ce match. Elle est forcée, absolument. Il est peut-être terminé ce match avec une deuxième balle. Encore une double faute sur une balle de match. Incroyable, comme sur la première. Il n'arrive plus à remettre la balle en jeu. C'est incroyable les mécanismes psychologiques du tennis. Et Madame Medvedev qui tombe le masque là pour encourager son mari et lui dire « Allez, c'est maintenant, il faut terminer. »
Davaï,
6-4, 6-4, 5-4, 40-30 pour Daniil Medvedev. C'est parti, cette fois elle passe et c'est terminé. Daniil Medvedev qui s'écroule sur le central Arthur Ashe en position de sommeil, un petit peu en PLS aussi parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions en cette fin de match. Mais il prive en tout cas le Russe, le numéro 2 mondial, il prive Novak Djokovic qui l'étreint vraiment très fraternellement. Il prive Novak Djokovic d'un 21e titre en grand chelem pour l'instant. 6-4, 6-4, 6-4, Lionel, une finale à sens unique qui se termine en un peu plus de 2 heures.
Exactement, 3-7, 6-4, 6-4, le compte rond et finalement une finale et une victoire méritée hein, pour la victoire pour Medvedev, Antoine Bento.
Bah ouais, plus que mérité, il a fait la finale parfaite, le Russe, parfaite vu en plus l'état de Novak Djokovic. Il l'a pas laissé revenir. Il y a eu une petite alerte en début de deuxième manche, une toute petite alerte au moment de conclure à 5-2. Mais sinon, il a été très bon au service. Quand le service s'est grippé, il a été très très bon du fond de court, capable de distribuer le jeu, de faire courir Novak Djokovic de droite à gauche, de finir les points quand il le fallait. Et puis un Novak Djokovic qui je pense a calé un petit peu physiquement, a peut-être été rattrapé par l'enjeu. C'est souvent une addition de tous ces détails là. Il faut le dire, moi en tant qu'observateur du tennis, je suis un petit peu triste parce qu'on voulait voir l'histoire s'écrire pour Novak Djokovic, remporter le grand chelem calendaire. On voulait vivre ça parce que ça aurait été juste exceptionnel. Et puis mais aussi on est aussi heureux pour Daniil Medvedev qui mérite ce premier titre du Grand Chelem et qui, on le pense fortement, ne s'arrêtera pas là.
Cédric Pelline, est-ce que c'est un coup très dur pour Novak Djokovic parce qu'il s'attendait sans doute à entrer dans l'histoire? Il en avait sans doute aussi très envie et beaucoup de personnes du monde du tennis l'auraient sans doute souhaité. Le fait que ça se termine de cette manière en plus, est-ce que c'est un coup très dur?
C'est oui, sur le moment, c'est sûr que c'est dur. On l'a vu, hein, cette émotion qu'il a traversée avec ses larmes alors que le match n'était pas fini. Donc je crois que ce qui est important, c'est pas forcément le nombre de fois où l'on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève. Et c'est un grand champion, il a l'habitude de gérer, de digérer ce genre de choses, ce genre de moments. Mais je crois qu'il peut légitimement être extrêmement fier de ce qu'il a accompli. Il était en position, il a gagné ce droit d'être en position d'avoir un match à gagner pour faire le Grand Chelem calendar. Donc je crois que franchement il va s'en relever. Il est un petit peu plus jeune encore une fois que Federer surtout Federer est un petit peu plus jeune que Nadal, donc il aura d'autres occasions. Il a une bonne dizaine, je dirais, de grands chelems encore, ou douzaine de grands chelems à jouer devant lui pour augmenter, je dirais, son nombre de victoires en grand chelem. Peut-être que la marche aujourd'hui était un petit peu haute avec tout ce qu'il a eu à gérer en termes de pression. Et peut-être aussi un grand merci, en tout cas du côté de Medvedev, à Zverev, qui a fait une partie du finalement du travail, qui a commencé le match de la finale lors de cette demi-finale. Donc c'est une conjoncture de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'était trop difficile. On l'a vu, il s'est relâché, mais vraiment que à la toute fin. Quoi.
Voilà, il était fatigué. En effet, il n'a que 34 ans. Hein. Il va le gagner, son 21e, peut-être 22e d'ailleurs, tournoi du Grand Chelem. Mais il ne peut pas l'enchaîner ici. On va aller faire un détour à Belgrade, Axel May, pour mesurer sans doute, même s'il est tard, la déception de cette défaite de Novak Djokovic.
Oui, alors derrière moi, vous devez entendre de la musique oui. slave. Je suis dans le quartier Bohème, comme il est surnommé, de Belgrade, où bah, les gens, là, clairement, sont déjà passés à autre perdu. Bah, on est déçus, évidemment, mais on pense à la suite. Et je vous citerai ce matin le serveur de l'hôtel que j'ai rencontré et qui était assez bavard, hein, qui m'expliquait les négociations en serbe et qui me disait Djokovic, de toute manière, on est en train d'employer le terme de GOAT, là, le terme qu'a employé tout à l'heure Jean-François Pérez, le plus grand de tous les temps. Mais peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, c'est déjà un très grand joueur comme Nadal, comme Federer. Donc c'est ce qu'il me disait avant le match, hein, ce monsieur. Et peut-être que c'est un peu l'état d'esprit que l'on peut ressentir ici ce soir à Belgrade. Évidemment, la fête aurait été grande si je était entré un peu plus dans l'histoire du tennis mondial. Mais ce fut un match expéditif, certes, mais un match qui a quand même permis à de nombreux Serbes de voir leur héros une nouvelle fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem.
Il reste incontestablement un héros pour tous les Serbes. C'est un monument, Novak Djokovic. Merci Axel May en direct de Belgrade. Direction Flushing maintenant, New York, Antoine Bancharel, avec l'émotion palpable sans doute. On l'a remarqué sur nos écrans, des larmes dans le dernier jeu de Novak Djokovic. Après le changement de côté, l'émotion, vraiment, il a été pris par l'émotion, la fatigue aussi, peut-être la décompression. Est-ce que cette émotion était palpable à ce moment-là et est-ce qu'elle l'est toujours aujourd'hui, Antoine ?
Oui, oui, oui. Alors, il y a quand même eu une déconnexion un petit peu avec le public, hein, mais il a essayé de les retrouver. Le public n'a pas été très fair-play sur la première balle de match de Medvedev qui a un petit peu interrompu son service. Et derrière, Novak Djokovic a pu faire ce débreak ensuite au changement. Il s'est un petit peu tourné vers eux pour une fois. Il s'est tourné vers le public. Il a un petit peu souri et les a salués tout doucement. Mais derrière, effectivement, il y a un Djokovic un petit peu à plat qu'on a trouvé au long de cette finale. Certainement fatigué par sa demi-finale contre Alexander Sacha Zverev. Vraiment, ce soufflet qui est retombé un petit peu de partout, que ce soit sur le court, ou dans les tribunes, même si on doit saluer l'exploit de Daniil Medvedev, qui l'avait annoncé, en plus, qui avait dit juste avant le tournoi, on est là pour bloquer Djokovic, et qui donc gagne son premier grand chelem en appliquant sa méthode, son objectif, et certainement le plan qu'il avait concocté dès l'Australie.
Oui, rien de personnel, bien sûr, parce qu'il a sa carrière aussi, hein, Medvedev, mais il devait battre Djokovic aujourd'hui, donc il l'a empêché de toucher son rêve, très vraisemblablement, et notamment le Grand Chelem calendaire. Merci Antoine Bancharel, bonne nuit, enfin en tout cas bonne journée à New York. Nous, ce sera bonne nuit pour, évidemment, dans quelques instants avant de rendre l'antenne. Mais Cédric Pioline, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avant que Djokovic remporte encore un tournoi du Grand Chelem, ce qui est probable, rien n'est sûr, évidemment, ce qui est probable, mais qu'il est vraiment l'un des plus grands joueurs de tous les temps, sinon le plus grand.
Oui, bien sûr. Mais dans alors après, il y a différentes façons d'apprécier ce titre, je dirais. Si on prend les chiffres froidement, il est, comme vous l'avez dit, probable que le Serbe va finir recordman de beaucoup de choses, à commencer par ce qui est le plus important dans un palmarès, le nombre de victoires en Grand Chelem. Après, je dirais que d'un point de vue cote d'amour ou cote de popularité, probablement qu'il ne sera pas le numéro un, que ça sera partagé entre Federer et Nadal. Donc, mais voilà, c'est un grand, grand, grand respect pour ce grand champion, voilà, pour ce qu'il accomplit, et d'avoir cette comme d'ailleurs ces deux copains, si je puis dire, entre guillemets, ils ont cette volonté, année après année, de repousser les limites, leurs limites, pour battre de nouveaux records avec une motivation et une passion du jeu qui est toujours intacte.
On vient d'apercevoir une image assez triste, avec déjà Novak Djokovic, la tête dans sa serviette, et puis il était assez atterré, hébété, il est même en larmes.
Il craque, c'est normal.
C'est très lacrymal.
D'un côté, ça fait mal, et d'un autre côté, c'est beau, parce que c'est humain de voir, justement, je pense qu'il a une pression émotionnelle extrêmement forte. On voit que, enfin, il est même plus qu'en pleurs, il est vraiment en sanglots, et on sent qu'il y a tout son corps qui remue. Donc c'est beau de voir ce moment. On est c'est le sport. En tennis, on est à un sport où il y a forcément un vainqueur. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin, je dirais, en termes de match, d'opposition. On aurait voulu qu'il y ait un match beaucoup plus serré, avec beaucoup plus de suspense, de rebondissements. On a assez vite vu que c'était à sens unique. Maintenant, grand respect pour Novak, pour ce qu'il a fait, d'avoir 27 victoires de suite en Grand Chelem. Il faut quand même le rappeler et puis souligner aussi, parce qu'on est énormément focalisé sur Djokovic qui avait cette possibilité d'accomplir son Grand Chelem, sur, je dirais, la performance et la prestation du Russe qui a fait le match qu'il fallait pour l'emporter aujourd'hui, même si, voilà, on peut après se dire que Novak aurait probablement dans son échelle personnelle joué beaucoup mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui, mais après c'est le sport, il faut être présent le jour J au rendez-vous, et il l'a fait de nombreuses fois.
Mais ça le rend un petit peu plus accessible, cette défaite, et surtout ses larmes, Jean-François Pérez, ses larmes, il est inconsolable, Novak Djokovic, on le revoit sur l'écran.
Quand on l'a jamais vu comme ça.
Et dans cette quête d'être finalement plus proche des gens et d'être aimé par le public, parce que je crois que c'est ça aussi qu'il cherche, bien ça peut-être l'aider.
Oui, entrer dans l'histoire du tennis, être aimé des gens, évidemment, mais ça en dit long aussi sur la rareté de l'événement qu'on a vécu ce soir en direct sur Europe 1, parce qu'une quête de grand chelem calendaire, peut-être que Novak Djokovic ce soir s'est dit, j'ai 34 ans, ça va quand même être difficile peut-être d'essayer de refaire la même chose, quoi, arriver à enquiller tous les tournois, arriver sur la 28e marche et buter sur la dernière. C'est horriblement frustrant ce qui s'est passé ce soir pour lui. Il va falloir qu'il soit très fort pour repartir à l'attaque dès son Open d'Australie préféré. Il en a gagné 9, on rappelle, peut-être le 10e à venir dans les prochains mois pour une nouvelle quête pour le Serbe.
On sera là sur Europe 1 pour accompagner Novak Djokovic vers ce titre de meilleur joueur de tous les temps et ses 21 titres du Grand Chelem. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, Jean-François Pérez, Cédric Pioline, Antoine Bento, Jimmy Algerino, et à New York,
merci,
Antoine
messieurs.
Bancharel et Axel May qui étaient à Belgrade. On était content de vous accompagner pour cet événement historique, même si ça fait un peu pchit par rapport aux résultats, c'est vrai. C'était un bon moment d'émotion.
On ira en Australie, Lionel.
Mais j'en suis persuadé.
Ça a été un plaisir en tout cas.
Le plaisir est vraiment partagé. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une bonne nuit et puis rendez-vous à partir de 5h évidemment avec l'info sur l'antenne d'Europe 1 et le sport qui revient mercredi. La Ligue des Champions et Bruges-Paris Saint-Germain. Bonne nuit.